recrutement, Maximin Deloche, Firmin Marbeau, Edmond Perrier, Isidore Roche, un juriste donc originaire de Turenne, et puis également Félix Vintéjou, prof de maths à Saint-Louis, qui lui était originaire et maire du Lonzac, donc un peu plus vers le nord de la Corée. Voilà. Une association qui était quand même assez élitiste, puisque en 1912, peu avant la Première Guerre mondiale, elle ne comportait que 450 membres. Donc ce n'était pas une association extrêmement populaire où on avait des ouvriers, hein, vraisemblablement pas. Ça restait quand même dans un domaine assez élitiste, avec une portée évidemment philanthropique, et on peut dire aussi sans doute un petit peu paternaliste hein, dans l'esprit de l'époque. Voilà. C'est la base, j'ai pris un peu de temps pour la présenter, parce que c'est vraiment la base de la structuration de nos sociétés d'originaires corréziens dans la région parisienne. Un mot encore, cette association corrézienne est à l'initiative de ceci. Alors ceci, c'est une statue donc, du général Marbeau, voilà, originaire d'Altillac à côté de Beaulieu. Et cette statue, elle a été offerte à la commune de Beaulieu par l'association corrézienne. Et elle a été inaugurée en 1895. C'est une statue donc, qui pesait 460 kilos et qui est entièrement en bronze et qui avait été donc, réalisée à Paris par un sculpteur qui s'appelait Édouard Millet de Marcilly. Pardon. Et ça a donné donc lieu à une cérémonie grandiose à Beaulieu. Mm-hmm. Voilà une image hein, de l'époque. Alors la statue, on la retrouve ici sur son piédestal. Voilà, et donc l'ensemble de la... Ça se passe sur ce qu'on appelle aujourd'hui la place Marbeau à Beaulieu. Hein. À l'époque, c'était la place Gambetta. Hein, voilà. Mais une inauguration grandiose donc en 1895. On s'en doute un peu, à la fois patriotique et militaire. Avec une fête qui a duré 3 jours, et puis toutes les sommités, on va dire, corréziennes étaient présentes, enfin toutes, presque toutes, puisqu'il y avait quand même quelques querelles politiques, ce qui fait que les élus de gauche à Beaulieu n'ont pas participé, hein, n'ont pas participé à cette inauguration. À propos, je l'évoque tant que j'y suis, on est là, avec cette cérémonie, dans la deuxième grande vague d'édification de statues de militaires au XIXe siècle. Il y a eu une première vague au début des années 1840. Bon, la statue du maréchal Brune à Brive, c'est 1841. On a eu également la statue de Murat à Cahors en 1843. Puis après, très peu. Et puis à la fin, donc tout à la fin du siècle, on a de nouveau une vague. Donc 1895, statue du général Marbeau à Beaulieu. 1897, on a la statue de Canrobert à Saint-Céré. Donc pas très loin de Beaulieu. Et puis la même année, en 1904 à Argentat, la statue de Delmas, du général Delmas. Voilà, donc on a une phase comme ça de construction. Au passage aussi, pourquoi Beaulieu? Puisqu'en réalité, le général Marbeau et la famille Marbeau étaient originaires non pas de Beaulieu, mais d'Altillac. En fait, la solution, je l'ai trouvée dans les papiers de l'époque, c'est une décision du sous-préfet de Brive qui a choisi Beaulieu donc, dès 1892 pour qu'on installe cette statue, je cite, à cause de la supériorité de la situation. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, arrive fort mal parce que la fin des années 1880 et les années 1890 sont une période de guerre larvée entre Beaulieu et Altillac, parce qu'il y avait un maire de Beaulieu qui voulait carrément annexer les parties basses d'Altillac, et je pense que ça a dû contribuer à crisper encore la situation. Hein, voilà. Bon. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Donc c'est l'association corrézienne de Paris qui a offert cette statue à Beaulieu. Alors statue qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas pas celle-là, puisqu'elle a été enlevée en 1942 à l'initiative des Beaux-Arts, hein, donc du régime de Vichy, qui a été ensuite emportée pour être fondue hein, au bénéfice de l'armée allemande, évidemment, comme on trouve énormément de statues en Corrèze. Voilà. Je peux signaler, je ne vais pas faire le tour de toutes les associations de Corréziens à Paris, mais j'en cite quand même deux autres qui sont importantes. Il y a, donc vous avez sans doute, au moins pour une d'entre elles, entendu parler, la Ruche Corrézienne.
Oui.
La Ruche Corrézienne qui a été fondée donc, en 1892 à Paris, qui est devenue en 1910 la Ruche Limousine, et qui a un lien fort avec le mouvement du Félibrige, hein, qui se crée à ce moment-là en Limousin. Elle a eu, elle aussi, des présidents assez illustres, Georges Le Cherbonnier, hein, qui était un juriste, puis René Lafarge, avocat, futur député, et un secrétaire perpétuel de sa fondation jusqu'en 1914, lui aussi connu, c'est Johannes Plantadis, hein, qui a été un infatigable, on va dire, promoteur de cette association. Cette association, au départ, elle avait son propre journal, qui s'appelait L'Écho de la Corrèze, et dès 1894, elle fusionne avec le journal Lémousie. Voilà, et à partir de là, les liens ont été très largement renforcés. C'est à l'initiative de l'association de la Ruche Corrézienne que vont être relancés en 1893 les fameux Jeux de l'Églantine, Jeux de l'Églantine, qui ont une origine beaucoup plus ancienne et qui avait été abandonnée donc plus de presque trois siècles auparavant. Et ces Jeux qui vont être organisés donc successivement dans plusieurs villes de la Corrèze, à Pompadour, à Aubazine, à Argentat, à Beaulieu, à Ussel, à Ventadour, etc., etc. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Les Jeux de l'Églantine ont une vocation à la fois, on va dire, folklorique, oui. Et ça ne leur plairait pas, mais disons que l'idée, c'est de promouvoir la langue et la culture limousine au travers de jeux littéraires, de pièces de théâtre, d'expositions, avec concours, etc. etc. Voilà. La deuxième association que je dois évoquer aussi, rapidement, c'est ce qu'on appelle le GEL, c'est-à-dire Groupe d'études limousines, qui a été fondée un tout petit peu plus tard, en 1904, à l'initiative de deux personnages importants là aussi, Arsène d'Arsonval, le professeur d'Arsonval. Moi, je suis prof d'Arsonval, donc je ne pouvais pas ne pas le citer. Et puis Louis de Nussac, également. Voilà. Là, c'est carrément une association qui a beaucoup plus une recherche, une vocation de recherche scientifique et de développement et de promotion économique du Limousin. C'est notamment elle qui est à l'origine en 1907 de ce qu'on appelle le congrès de l'arbre et de l'eau et qui va quelques années plus tard être à l'initiative notamment du reboisement de 1000 vaches avec les fameux pins, les pins Douglas, qui est à l'origine aussi de quelque chose qui concerne également Beaulieu, la création dès 1904 du syndicat d'initiative des Gorges de la Dordogne qui allait de Bord-les-Orgues jusqu'à Beaulieu. Il y avait quatre sections dirigées par des personnages du cru, un à Beaulieu, un à Argentat, un à Bord-les-Orgues, et le quatrième, je ne me rappelle plus, ça devait être du côté de Neuvic, enfin un peu plus bas, voilà, je ne l'ai plus en tête, mais enfin peu importe. Et puis enfin, il y a également un journal qui va être important pour l'association qui va nous concerner, qui s'appelait le journal Le Limousin de Paris. Donc bon, il a une histoire un peu compliquée, il y a eu un premier journal en 1893, puis ensuite une deuxième fondation en 1906, avec un directeur qui était un haut-viennois qui s'appelait Jacques Quentin, dont je reparlerai un tout petit peu, mais qui va devenir très vite, et c'est en ça que c'est important pour nous, on peut dire le bulletin officiel de toutes les amicales de Limousin à Paris. Ce qui fait que c'est une mine pour nous, parce qu'on a beaucoup d'informations sur les évolutions de ces associations. Elle a aussi un rôle pour resserrer les liens entre les Limousins qui habitent à Paris. Elle publie des offres d'emploi, par exemple. Elle fait la publicité pour le pays corrézien, etc., etc. Voilà. Après 1900, les associations locales vont se multiplier. J'en ai mis quelques-unes, elles n'y sont pas toutes, je vous dis. La toute première, semblerait-il, c'est l'Usershoise, qui est créée en 1902. Puis ensuite, le Chardon de Beaulieu, donc qui va nous préoccuper, créé en 1905. L'Oucocal de Messac, en 1907. Les Enfants de Saint-Privat, en 1908. Le Peloux d'Aigleton, en 1909. Les Monédières, en 1909 également. L'Issandonaise, en 1910. Le Cabalbena, l'Union de Tuloise, les Brivistes de Paris, etc., etc. On estime qu'il y a eu à peu près une cinquantaine d'associations locales de Corréziens à Paris, ce qui pourrait représenter entre 5000 et 6000 personnes membres de ces associations, ce qui lui-même fait à peu près 15% du potentiel, c'est-à-dire à peu près 15% des Corréziens qui étaient dans la région parisienne ont adhéré à ces associations, ce qui fait une vitalité assez importante. Voilà. Et à noter aussi qu'il existe des liens assez forts entre les différentes associations. Voilà. Elles s'invitent mutuellement les unes les autres à leur banquier, à leur soirée, etc. Là, c'est un des documents que j'ai eu, donc comme beaucoup que je vais vous présenter dans les papiers privés de la famille Champagne, où on voit ici donc que l'invitation elle est faite par le Cocal de Messac, voilà, pour leur grande matinée artistique, voilà, etc. C'est en 1909. Et c'est l'invitation de monsieur le docteur Toulzac, je vais évidemment en parler parce que c'était le président du Chardon de Beaulieu, voilà, et de la part de monsieur Ménager, qui était le président du Cocal de Messac. Et comme ça, on a dans les papiers pas mal d'invitations réciproques entre les différentes sociétés. Voilà. C'est l'occasion aussi d'évoquer la migration des Bélocois et plus largement des Corréziens à Paris et dans la région parisienne. Je vous ai mis ici un document, alors je n'ai pas été le chercher bien loin, hein. Là ça c'est un document parce qu'on sait qu'on peut le, qu'il est fiable, donc c'est fait à partir des recensements, je l'ai trouvé sur Wikipédia, hein, c'est simplement l'évolution de la population de la commune de Beaulieu, ça m'a évité de refaire un document par moi-même, donc je l'ai pris en place. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer cette période-là, l'apogée de la population à Beaulieu, la commune, hein, je parle de la commune de Beaulieu, c'est 1866, où Beaulieu a eu 2571 habitants, et à peu près 45 ans, moins d'un demi-siècle après, en 1911, donc on est avant la Première Guerre mondiale, donc la Première Guerre mondiale n'est pour rien à cette chute, Beaulieu a perdu quasiment 700 habitants, c'est-à-dire elle a perdu 27% de ses habitants en un demi-siècle, puisqu'elle tombe à 1886 habitants. On retrouve la même proportion pour l'ensemble du canton de Beaulieu. Le canton de Beaulieu était traditionnellement un des cantons les plus densément peuplés de la Corrèze, notamment à cause de la viticulture. Mais voici les chiffres. Pour la même période, hein, 1866-1871, le canton de Beaulieu passe de 11 300 habitants à 8 550 habitants. C'est-à-dire qu'il a perdu 3 000 habitants. On est à quasiment 27% également. Voilà. Certaines communes du canton de Beaulieu ont été encore plus touchées. La petite commune de Végennes, hein, qui est au sud du canton, qui est limitrophe avec le Lot, a perdu 33% de ses habitants en moins d'un demi-siècle. Puis d'Arnac, donc plutôt au nord du canton, 29% de perte des habitants, etc. etc. Voilà. Et la commune de Beaulieu, elle est en fait dans la moyenne des pertes des habitants. Alors comment expliquer ça? Bon, on connaît les traditions migrantes des Creusois, des gens du plateau de Millevaches, des gens de la Xaintrie, de la Haute-Vallée de la Dordogne, et même de Bénin et Messac vers d'autres horizons qui ont été largement étudiés par Chantal Sauvignac. Pas de tradition migrante dans le Bellocois. Voilà. C'est un pays qui est un pays de viticulture. Alors on peut penser, évidemment, à la crise du phylloxéra des années 1880 qui aurait conduit à l'émigration corrézienne. Honnêtement, je pense que ça n'a pas joué un très très grand rôle. Peut-être à la marge, mais ce n'est pas l'explication principale. Pourquoi ? Parce que pour partir, et contrairement aux idées reçues parfois, pour partir, il faut de l'argent. Et c'est rarement les plus pauvres qui partent. Les plus pauvres, ils restent. Donc c'est des gens qui ont un horizon qui partent, et pas les plus pauvres viticulteurs qui se seraient trouvés ruinés et qui d'un coup seraient partis. Il y en a peut-être quelques-uns, je ne dis pas le contraire, mais à mon avis, ce n'est pas l'explication principale. En réalité, il y a un ensemble de facteurs concordants, à la fois généraux et puis d'ordre plus local. Alors pour ce qui est des facteurs généraux, là ça a été largement étudié par les gens qui ont écrit les ouvrages sur ces questions. Il y a bien sûr l'essor des transports, qui facilite les déplacements à travers la France, l'essor de l'emploi urbain, particulièrement évidemment des grandes usines, mais aussi du fonctionnariat, la législation de la Troisième République qui en réalité est plus favorable au monde ouvrier qu'au monde paysan, un milieu social dans nos petites régions qui est quand même très restreint et assez immobile, qui fait qu'une partie de la jeunesse a du mal, a envie, on va dire, un peu de sortir de ce carcan traditionnel. La découverte de la ville par le service militaire, etc., etc. Hein, autant d'éléments qui ont pu être des éléments attrayants. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs locaux que qui me semblent être pertinents à évoquer. Pour Beaulieu particulièrement, c'est le rôle important qu'ont joué les écoles. Beaulieu est doté depuis fort longtemps d'un réseau d'écoles importantes, et au XIXe siècle, presque toute la durée du XIXe siècle, on a les deux écoles, on peut dire comme ça. On a un réseau d'écoles catholiques qui est très très bien implanté, donc pour les jeunes filles, donc il y a les sœurs de Nevers qui ont leur école, il y a les Ursulines qui ont leur école, pour des familles plus aisées. Et puis pour les garçons, on a l'école des Viatoriens, hein, les frères de Saint-Viateur qui ont été créés à Lyon et qui sont un ordre qui se dédie particulièrement à l'enseignement. Et on a également une école laïque à Beaulieu, laïque qui est privée dès 1820, qui va être ensuite reprise par la commune et qui va bénéficier en 1871 d'importants travaux avec une nouvelle école qui est construite, etc. etc. Donc on a un réseau d'écoles qui est assez important, ce qui fait que l'alphabétisation à Beaulieu a fait des progrès très forts au XIXe siècle. Je cite deux chiffres. En 1850, il y a seulement 40%, ce qui est, je dis seulement, mais on est pas mal hein, par rapport à la Corrèze déjà à l'époque. En 1850, il y a déjà 40% des conscrits qui savent lire et écrire, et en 1880, on est à plus de 70%. Voilà. Donc on a là un vivier de jeunes qui vont poursuivre leurs études en ville. Donc il y a beaucoup de jeunes qui vont partir en ville et qui ne reviendront pas, ou en tout cas qui reviendront, mais simplement de manière épisodique par la suite. Ce qui fait qu'on trouve parmi les Bellocois qui partent de nombreux fonctionnaires, des professions libérales, on en sait grand nombre, avocats, médecins, pharmaciens, etc. etc. Et puis un certain nombre d'entrepreneurs également, qui vont créer leurs entreprises dans la région parisienne, que ce soit des entrepreneurs de commerce, ou d'artisanat, ou même d'industrie. Voilà. Donc en réalité, ce sont surtout ce que je pourrais appeler les forces vives qui ont quitté Beaulieu à ce moment-là. Voilà. Pour ce qui est des métiers qu'exercent ces expatriés bellocois, moi je n'ai pas de données, hein, parce que je n'ai pas eu de base de données pour les étudier. Par contre, Isabelle Sermadiras a donné des éléments assez intéressants que j'ai produits sous la forme d'un graphique, même si ça n'est évidemment que parcellaire. Voilà, au tout début du XXe siècle, hein, ce sont les chiffres pour 1901. Voilà quelques métiers qu'elle a pu retrouver et leur importance donc de Corrézien à Paris. Alors, ce qui est en bleu ici, c'est autres, hein, 27 000 personnes, c'est-à-dire des métiers qui peuvent être soit des métiers d'ouvriers, commerçants, etc. Et puis il y a les familles aussi, hein, donc il doit y avoir des enfants, des gens qui n'ont pas travaillé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de métiers qui sont particulièrement bien représentés. Évidemment, mais sans surprise, les métiers du bâtiment, hein, les métiers du bâtiment qui représentent 8600 Corréziens qui travaillent à Paris en 1901 dans le bâtiment, c'est-à-dire à peu près 20% hein, des Corréziens, entre 15 et 20%. On a à peu près 2000 cochers, hein, les cochers, alors qui sont originaires essentiellement de deux cantons de Haute-Corrèze, hein, c'est Sornac et Bugeat. Voilà, Sornac et Bugeat, ils sont cochers, pour beaucoup ils deviendront taxis par la suite. Hein. On a également un nombre assez important de fonctionnaires, hein, 1500 fonctionnaires, et puis 3000 domestiques, voilà, et 600 concierges, voilà, corréziens. Hein, donc, ça n'est pas les chiffres, évidemment, ils ne couvrent pas la totalité des gens, mais c'est quand même des chiffres qui ne sont pas négligeables pour ces catégories de métiers. Puis on peut noter aussi qu'en 1910, sur les corréziens qui sont expatriés à Paris, eh bien, en réalité, 51% sont des corréziennes, la moitié sont des femmes. Hein, voilà. Donc l'éducation, elle a forcément joué, hein, parce qu'on a laissé partir un certain nombre de jeunes femmes à Paris pour essayer de trouver du travail. Voilà. Donc voilà pour, j'ai envie de dire, cet environnement qui fait qu'il bah, y avait un intérêt à ce que cette association de Beaulieu se crée. Donc le deuxième point que je voulais évoquer, donc, c'est la période de la guerre, hein, 1905-1914, que j'ai appelée la belle époque du Chardon de Beaulieu. Alors comment est née l'association. Ça, je l'ai retrouvé grâce à différents documents qui ont été conservés par la famille Champagne et qui proviennent d'un personnage que je vais évoquer plus longuement après, qui s'appelait Élie Champagne, puisqu'il a présidé l'association. Et notamment, on a un document, celui-ci, alors vous n'allez pas pouvoir lire, c'est pas assez, assez net, mais enfin, peu importe. C'est un document qui nous explique l'origine de cette association. En fait, ça a commencé par une réunion informelle de 7 personnes qui se connaissaient, 7 amis, qui ont été réunis en juillet 1905 à Versailles par un personnage qui va devenir le premier président, qui s'appelait le docteur Toulzac. Voilà. Ces personnages, ils étaient originaires, pas de Beaulieu même, mais ils étaient pour 5 d'entre eux originaires de Puy-d'Arnac et 2 de Nonard. Voilà. Donc ils se sont réunis, on peut imaginer une espèce de réunion de famille ou d'amis, quoi, voilà, et c'est là que l'idée est venue. Et pendant tout l'été, il y a un des personnages qui était présent à cette réunion, qui s'appelle Joseph Perrier, qui va se mettre en quête, alors par les moyens du bord, j'imagine, de récupérer le maximum d'adresses de gens du canton de Beaulieu à Paris. Et à la fin de l'été, il a récupéré 343 adresses. Voilà. Donc il va envoyer un courrier à ces gens-là pour leur proposer de se retrouver, et il va y avoir donc une première réunion générale qui a lieu le 25 octobre 1905. On peut considérer que c'est à ce moment-là que se crée l'association, avec un bureau provisoire lors de cette réunion. Le président, c'est le docteur Toulzac. Et puis ensuite, des statuts, voilà, statuts types, qui ont été retravaillés, hein, voilà, de la main donc, du secrétaire. Donc, statuts types pour le Chardon. Remarquez au passage que le nom n'est pas complètement encore bien calé, hein, puisque c'est le Chardon corrézien du canton de Beaulieu et environ. Et finalement, à l'arrivée, ça sera le Chardon de Beaulieu, pardon. Et c'est lors de l'Assemblée Générale du 18 janvier 1906 que l'association va avoir ses statuts. Signalons que avec ces statuts, il y a donc un cadre évidemment institutionnel et moral, j'ai envie de dire un cadre qui est double, puisque ces statuts s'inscrivent donc dans la loi du 1er juillet 1901, donc loi sur les associations, mais ils s'inscrivent aussi dans la laïcité déjà. Puisqu'on est au moment de la séparation des églises et de l'État, ça se passe à peu près en même temps. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le journal La Croix de la Corrèze fait un article pour saluer la naissance de l'association Le Chardon de Beaulieu, en regrettant vivement qu'il n'y ait aucune messe pour les manifestations de ce même chardon. C'est une association qui, dès le départ, s'est inscrite dans une voie laïque, ce qui correspond bien aux enjeux de l'époque, totalement. Et puis, c'est au même moment, alors je ne sais pas exactement à quelle date, mais que va être choisi donc un emblème, on dirait aujourd'hui un logo pour cette association. Et cet emblème, il est assez intéressant. J'ai pu retrouver également dans les papiers que le nom, le Chardon de Beaulieu, avait été proposé par le docteur Toulzac, qui lui-même était originaire de Puy-d'Arnac. Et il disait que le chardon le chardon était une des plantes donc pittoresques et on va dire traditionnelles du pays de Beaulieu. Et il disait donc on le retrouve ici, aux quatre coins. Et il disait que les armoiries de la commune de Puy-d'Arnac étaient composées de 3 chardons. Sauf qu'en fait il s'est trompé parce que les armoiries de Puy-d'Arnac étaient constituées du blason de la famille d'Anteroche, et c'est pas 3 chardons, ce sont des herminettes, en fait. Voilà, bon, il s'est un peu trompé, mais enfin, bon, voilà. Donc, le chardon est resté, voilà pourquoi ça s'appelle le chardon. Et puis, également, donc, on y retrouve les armoiries, là, de Beaulieu, les armoiries de la commune de Beaulieu, avec ce destrochère et les 3 tours, et la couronne de baron, qui rappelle le consulat de Beaulieu. Le modèle qui a servi pour la réalisation, c'est un blason qui existe encore, malheureusement qui se détériore, mais on a bien eu beau expliquer qu'il fallait le protéger, et ça n'a toujours pas été fait, et qui se situe dans une petite impasse de Beaulieu, qui date du XIVe siècle, qui est en pierre. Bon, on espère qu'il va tenir encore. Et puis on a également, ce qui est intéressant, une devise. Pulsate et aperietur vobis. Alors, on traduira ça par « frappez et on vous ouvrira ». Alors, au début, moi, je me suis dit, bon, ça symbolise la convivialité, etc. Bon, ce qui est vrai. Mais c'est pas négligeable de savoir que cette devise, on la retrouve ailleurs, à Beaulieu. On la retrouve, vous l'avez là, « Pulsate et aperietur vobis 1827 ». Et là, je dois être gré à quelqu'un qui, malheureusement, a disparu, qui s'appelait François Alouette, qui était l'ancien président de l'Association du patrimoine, qui un jour m'a dit, mais... Moi, je l'ai déjà vu quelque part, ce truc-là, parce que quand j'avais fait une conférence là-dessus, et il m'a dit, mais alors il faut que je cherche, et puis il m'a dit, mais je sais, c'est côté ouest de l'église, entre la porte extérieure et la porte intérieure. Mais effectivement, comme il fait noir, si on ne le voit pas, alors du coup, j'y suis allé, et puis j'ai pris cette photo. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas d'où ça vient exactement, 1827, parce que on sait que la porte, elle avait été, la porte ouest de l'église, elle avait été restaurée par les moines mauristes, mais c'était fin 17e siècle, donc voilà. Donc là, il faut encore chercher, il y a encore... On n'avance pas à pas, évidemment. Mais bon, toujours est-il que ceux qui ont choisi ce logo, ils ne pouvaient pas ne pas avoir pris référence à ça. Quand on le sait, après, ça paraît évident. Voilà. Ce que je sais aussi, c'est que ce logo, il a été réalisé par un personnage que je vais être amené à vous présenter un peu plus longuement tout à l'heure, qui s'appelait Robert Pradel. Robert Pradel, il est né en 1888, donc il était tout jeune, il avait 18 ans à peu près, il est mort en 1951. C'était un artiste, donc il est né à Paris, mais originaire de Beaulieu, son père était vice-président du Chardon, il a exposé beaucoup dans le Salon des artistes français à Paris. Il s'est spécialisé dans la peinture animalière, il a eu une notoriété assez forte quand même, et puis à partir de 1930, il est revenu à Beaulieu, et puis il y a quelque temps, je discutais avec mon père, il me dit, mais moi, Monsieur Pradel, je l'ai bien connu, parce qu'il était prof de dessin à Beaulieu, et mon père m'a dit, mais on le surnommait le petit gris, parce qu'il était petit, et puis il avait toujours une blouse grise, Mais c'est un personnage qui a accompagné le chardon, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, dans ce chardon des origines, de la première époque, on va dire, il y a plusieurs personnalités qui sont assez marquantes, et notamment, donc, celui-ci, le docteur Maurice Toulzac, né en 1875 et mort en 1909. Et le portrait, là, j'ai eu de la chance parce qu'il est dans le Limousin de Paris. C'est dans le Limousin de Paris que j'ai pu récupérer un certain nombre de portraits. Sinon, vraisemblablement, qu'on n'aurait pas, j'aurais pas pu avoir son image. Voilà. Ce personnage, donc, c'est le fils d'un notaire depuis Darnac, voilà, qui a fait des études donc à Beaulieu, puis ensuite au collège de Tulle, puis des études médicales à Bordeaux et à Paris, et qui en 1901 a passé sa thèse pour devenir médecin. Je vous en livre le titre parce que c'est assez, pour moi, un peu abscond. Je cite « Rire et pleurer spasmodique ». Bon. Mais toujours est-il qu'il est devenu ensuite médecin, qui s'est installé à Versailles, et il a ensuite passé une sorte d'examen, et il est devenu en 1907 légiste auprès des tribunaux. Donc médecin légiste auprès des tribunaux, il avait une situation assez intéressante, voilà. Et il était célibataire. C'est un républicain convaincu, c'est en tout cas comme ça qu'il est présenté, notamment après son décès. Républicain convaincu, traduisait à l'époque, il fait partie des radicaux, hein, il est dans la mouvance radicale, voilà. Comme son ami et confrère, dont je parlerai un peu plus loin, qui s'appelait le docteur Raymond Faugère, qui a eu un rôle important à Paris et à Beaulieu, et qui était également un radical. Il préside donc le Chardon de son origine de 1905 jusqu'à sa mort en 1909. Il était également membre des Limousins de Versailles, et donc visiblement un personnage assez actif dans ces associations d'originaires. Alors il est mort prématurément, hein, puisqu'il avait 34 ans, donc en 1909. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, est-ce que c'est un accident, une maladie ? Point d'interrogation. Toujours est-il que lorsqu'il est décédé, il a eu des hommages assez importants. Il y avait 400 personnes qui s'étaient réunies à Versailles et qui ont amené le corps jusqu'au train. Et puis ensuite, il y a eu une cérémonie importante et grandiose donc à Puy-d'Arnac, puisqu'il a été enterré à Puy-d'Arnac. Son tombeau, hein, tombeau monumental qui rappelle le prestige social de la famille. Hein, donc là aussi, on est plutôt dans l'élite locale. Et puis ce blason qu'on peut voir, hein, ça c'est à Puy-d'Arnac, au cimetière de Puy-d'Arnac. Alors, c'est assez intéressant aussi. En 1913, donc 4 ans après sa mort, donc le Chardon de Beaulieu a décidé de faire son portrait donc en médaillon, hein, en bronze. C'est Robert Pradel, l'artiste que j'ai évoqué, qui l'a réalisé. Et il était prévu de faire une cérémonie pour l'installer solennellement le 30 août 1914. Pas possible, hein, et ça se fera seulement en 1919, puisque la guerre est passée par là. C'est un moment où la petite histoire télescope la grande, on peut dire, comme ça. Voilà. Et ce blason, donc, il a été réalisé par Robert Pradel, il est signé, voilà, et donc l'inscription « Le Chardon de Beaulieu » à son fondateur. Donc c'est évidemment un personnage marquant. Sauf que lorsqu'il décède, en 1909, on fait une assemblée générale extraordinaire pour choisir un nouveau président, et là, les choses se gâtent. L'Assemblée Générale Extraordinaire a été très mouvementée, visiblement, mais vraiment très mouvementée, comme les hommes de la Troisième République en avaient le secret, très clairement pour des raisons politiques. Voilà. Il y avait deux tendances, il y avait les radicaux d'un côté, et puis il y avait les modérés, on dirait les conservateurs ou la droite aujourd'hui, et finalement, eh bien, les radicaux sont mis en minorité, ce qui fait que plusieurs personnes, dont le docteur Faugère, vont démissionner peu après, et ce sont les conservateurs, on va dire, qui vont prendre la tête du Chardon pendant une bonne dizaine d'années, même un peu plus, pratiquement 12 ou 13 ans. Voilà. Et c'est un personnage qui s'appelle Arsène Dallet, qui était pharmacien, qui va être élu difficilement au second tour. Voilà. Et dans le PV, le docteur Faugère est accusé d'agitation. Lui, c'était le chef, entre guillemets, des radicaux. Hein. Donc on l'accuse d'agitation. Et il démissionne à la réunion d'après, démissionne du bureau avec ses copains radicaux. Voilà. Et ce sont les conservateurs qui prennent la tête à ce moment-là. Arsène Dallet va rester président même pas 2 ans, voilà, puisqu'après il doit démissionner pour raisons professionnelles, donc j'imagine qu'il a dû il a dû changer d'endroit, voilà. Et c'est à ce moment-là Élie Champagne qui va devenir président. Donc voici un portrait d'Élie Champagne là aussi, hein, donc publié dans le Limousin de Paris. Donc il est né en 1875, mort en 1940. Il va être président pendant la période cruciale du Chardon, c'est-à-dire de 1911 jusqu'à 1920. Voilà. C'est un personnage qui est né, alors non pas en Corrèze, il est né à Cahus. Alors Cahus, c'est pas loin de la Corrèze, mais c'est dans le Lot. Et puis il a ensuite vécu sa jeunesse à Nonard. Il a été ensuite, il est rentré au chemin de fer de l'État, et il s'est marié avec une jeune femme, pas sur la photo, elle commence déjà à être un peu âgée, mais avec une jeune femme qui était originaire de Brivzac, qui s'appelait Jenny Mazirac, et qui est en fait une cousine de ma grand-mère. Voilà, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Hein, mais voilà, donc on a des origines, enfin, on va dire que loin, de manière lointaine, on a une proximité. Et donc, comme il rentre au chemin de fer de l'État, donc il va s'installer à Paris, hein, rue Leibniz, avec son épouse. Dès l'origine du Chardon, dès 1905, il fait partie des fondateurs, il est secrétaire, voilà. Et après la mort de Toulzac et la démission de Dallé, c'est lui qui va devenir le président du Chardon. C'est un conservateur, hein, très clairement. Hein. Il fait partie de ceux qui étaient bien contents de voir le docteur Faugère être éjecté. Voilà. Ce qui explique, alors est-ce que je l'ai mis là, je ne me rappelle plus, mais je crois... Voilà, ce qui est, enfin, ce qui explique rien du tout, voilà. Mais j'ai mis ça aussi parce que, donc je vous ai dit, il va rester président de 1911 à 1920, et puis en 1920, après la guerre, c'est la première réunion du Chardon. Après, donc pendant de 1914 jusqu'à 1920, il n'y a plus de réunion du Chardon, même s'il fonctionne par un autre biais. Et puis en 1920, lors de la réunion de reprise du Chardon, là, il annonce sa démission. Il n'y a pas d'animosité politique, c'est simplement que, bon, je pense qu'il en avait un peu marre, il avait beaucoup travaillé, vous allez voir pourquoi. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, il dit, il est temps qu'une nouvelle génération prenne la place, et ce sont des gens plus jeunes qui vont reprendre le Chardon par la suite. Mais j'ai rajouté un petit document, voilà, qui est assez intéressant, un document de 1930, je vais vous le lire parce qu'il ne sera pas facile à lire comme ça. Mmh. Document de 1930 qui a été, c'est un discours prononcé à l'occasion de la fête du 25e anniversaire du Chardon, prononcé par celui qui entre-temps est devenu, non pas président, il n'a jamais été, mais président d'honneur du Chardon, c'est-à-dire le docteur Raymond Faugère, et qui rend hommage à Élie Champagne pour ce qu'il a fait pendant 9 ans de présidence entre 1911 et 1920. À Élie Champagne qui, pendant la guerre, publia un journal, Le Trait d'Union, que ceux de l'avant et ceux de l'arrière suivaient avec le plus vif intérêt, puisque chacun, ainsi, pouvait avoir des nouvelles des autres. Après une carrière administrative bien remplie, tel Cincinnatus, il s'est retiré à Nonard, dans la propriété des aïeux, puisqu'il y coulait de nombreux jours heureux. On a vu plus chaleureux quand même, hein, comme hommage au président. En fait, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à se rabibocher. Et donc, il a fait le travail, mais à minima, on va dire. Hein, à minima. Voilà. Je voulais évoquer un troisième personnage, un peu plus différent, mais il est assez rigolo à évoquer. Donc, Étienne Eugène Bussière, donc, né en 1850 et mort en 1940. C'est un personnage qui est né à Beaulieu et qui est mort à Donznac. Et au début de sa carrière, il est juge de paix à Donznac. Voilà. Ensuite, il a eu plusieurs mandats politiques. Il a été conseiller général de Vigeois, maire de Donznac, député, sénateur. Alors tout ça, évidemment, à différentes périodes. Et il a un lien assez important avec le Chardon. Dès 1906, on le fait président d'honneur du Chardon, alors qu'à l'époque, il est député. Ce qui fait que du coup, eh bien, il va obtenir du Conseil général de la Corrèze une subvention de 50 francs pour le Chardon, voilà, qui sera supprimée dès 1910, c'est-à-dire dès qu'il ne sera plus député. Voilà. Et puis, il vient très souvent au banquet. Donc, il a gardé des relations fortes avec le Chardon. On le retrouve encore en 1924, hein, donc assez tardivement, alors qu'il n'a plus de mandat parlementaire et alors qu'il est devenu juge de paix à Menton, sur la Côte d'Azur. Mais le Chardon... Il a gardé un lien assez fort avec. C'est un personnage assez rigolo, je disais, parce que c'est un radical. C'est un radical, mais alors un radical à sa façon, on peut dire comme ça. Voici un article de 1921 de la Corrèze républicaine et socialiste qui parle d'Étienne Bussière. Donc, vieux renard de la politique, sénateur sortant, né à Beaulieu, se fixe à Donznac. Bon, avec l'aide des républicains d'il y a 20 ans, ce petit clerc bouscule et fait mordre la poussière au comte de l'Astérie. Battu à son tour par Dousseau en 1910, il rentre péniblement au Sénat en 1912, change son fusil d'épaule, brûle ce qu'il avait adoré, le voilà maintenant l'allié de l'Astérie, député, c'est l'homme de la réaction et du bloc national, et si nous n'avions le dégoût des girouettes, nous dirions que Bussière sert admirablement la propagande socialiste et révolutionnaire en Corrèze. Voilà. Donc un personnage qui visiblement a assez largement évolué, hein, passant d'un bord à l'autre. Il a des liens aussi assez forts avec Beaulieu, même s'il est plus souvent à Donznac. Il a la maison familiale qui se situe rue Saint-Roch, c'est-à-dire près de la mairie actuel à Beaulieu, et il a été candidat à Beaulieu, donc vous voyez, il a été candidat souvent, hein, candidat au cantonal à Beaulieu en 1913, face à un personnage qui s'appelait, j'ai perdu son prénom, je crois que c'est Camille Glaise. Alors Camille Glaise qui est resté conseiller général de Beaulieu pendant plus de 40 ans, hein, 43 ans, de 1913 jusqu'à 1956, à sa mort, qui était le premier élu socialiste de la Corrèze. Mais lui aussi, c'est un socialiste qui, bon, il est pas, c'est pas un socialiste rouge-rouge, hein, il est parfois rose clair, bon, enfin ça dépend, mais enfin bon, voilà. Et donc il est, Bussière est candidat en 1913 contre Glaise, et là va se produire un fait divers assez intéressant, c'est que devant le Café de l'Univers, qui est un des grands cafés sur la place du Champ de Mars à Beaulieu, et bien un jour de campagne électorale, Bussière, on vient aux mains avec un personnage qui visiblement n'était pas d'accord avec lui, qui était le juge de paix de Beaulieu, qui s'appelait Berger. Ils se sont battus, et ce sont des femmes qui les ont séparés. Voilà, en pleine rue. Alors ça n'a pas fait sa promotion, donc en 1913, il a été battu à Beaulieu, et voilà, il n'aura plus de mandat. Par contre, il va garder toujours, hein, des liens avec le Chardon de Beaulieu assez fort. Si je l'ai évoqué, c'est aussi parce que c'est un exemple de ces personnalités politiques locales qui vont, de toute façon, même si elles ne sont pas à Paris tout le temps, avoir un lien avec les associations d'originaires. Il y en a pratiquement tous, hein. Charles de Lastérie, qui est le président de l'Issandonaise, par exemple, à un moment donné, Alexis Jobert, Henri de Jouvenel, Henri Cueil, etc., tous sont membres des associations d'originaires.
Ils sont aussi membres de notre association.
Et voilà.
Presque tous, ouais. Oui.
Et, ben oui, parce que ben c'est oui, des oui, réseaux. Hein, ce sont des réseaux, des réseaux qui aussi favorisent leur mandature politique.
Sans doute. Ça, ouais, voilà.
Alors, j'en viens maintenant aux adhérents du Chardon de Beaulieu. Les adhérents du Chardon de Beaulieu, voilà. Alors là, j'ai bénéficié là aussi, hein, des documents de Champagne. Alors, les données sont incomplètes, hein, j'ai quelques lacunes, mais j'ai quand même des éléments assez intéressants. Par exemple, donc, on voit qu'en 1906, on a 40 membres, voilà, et en 1912, on est à 192 membres. Voilà, donc ça fait multiplié par 4,5, multiplié par 5, en 5-6 ans, quoi, à peu près. Hein, voilà. Donc on a une politique de recrutement qui est estimée qu'avec les familles, ça fait plus de 400 personnes quand même. Hein, donc c'est pas négligeable du tout. On voit aussi que, évidemment, avec l'entrée en guerre, donc les effectifs chutent considérablement. Alors 13 et 14, on n'a pas les chiffres, voilà. Mais en 1915, il reste 13 membres. 13 membres. Tous les autres sont partis, soit parce qu'ils ont été mobilisés, soit parce que les liens sociaux se sont un petit peu relâchés, on va dire comme ça. Et on voit qu'ensuite, ça remonte. Et ça remonte bien, puisqu'en 1919, on a de nouveau 132 adhérents. Voilà. Donc l'association, elle n'est pas morte. Et au contraire, pendant la guerre, elle va remonter. D'autant plus que va être créé en 1916 un nouveau type, non pas d'adhérents, mais ce que Élie Champagne appelle les souscripteurs. C'est-à-dire les gens qui vont recevoir le journal, que je vais vous montrer tout à l'heure, hein, voilà, le trait d'union. Donc ils payent 2 francs, une fois pour toutes, et le Chardon s'engage à leur envoyer le journal jusqu'à la fin de la guerre. Évidemment, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera finie. Mais ça a permis de retisser des liens, si vous voulez. Voilà. Et dans ces souscripteurs, on a des gens de Paris, des Belloquois de Paris, mais on a aussi, et beaucoup, de Belloquois de Beaulieu qui vont adhérer. Voilà. Et c'est comme ça que l'association, finalement, a été sauvée de l'initiative de ce journal. Voilà. Je vais l'évoquer, évidemment ensuite. Voilà. Donc ça, je l'ai évoqué. Et puis, pour ce qui est des listes de membres, j'ai une liste de membres, c'est celle de l'année 1909. Alors, je vous ai mis une page. Elle est une des pages, hein. Il doit y avoir 6 pages, quelque chose comme ça. Donc, on en a une trentaine par page. Donc, en 1909, je n'ai plus vérifié exactement, mais on doit être à 150 membres, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le nom et le prénom de l'adhérent. Que des hommes, hein. Pas de femmes, hein. Dans les adhésions. Hein. Ah non, c'est pas possible. Hein. On va en parler après des femmes, mais là, elles ne peuvent pas être adhérentes. Voilà, donc que des hommes, voilà, et puis on a leur commune d'origine, et pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, leur adresse à Paris. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai pu faire quelques éléments. Et puis alors, je parcourais cette liste de 1909, et là, je tombe sur un nom qui m'était forcément familier, le Hec Raphaël, c'est mon arrière-grand-père en fait. J'ai retrouvé mon arrière-grand-père comme ça, je savais même pas j'avais jamais entendu parler que mon arrière-grand-père avait adhéré au Chardon, je savais même pas qu'il avait été à Paris à un moment donné, voilà. Mais sur la liste de 1909, il y est avec son adresse, rue d'Henri-Rémy, etc. Donc c'était assez émouvant de pouvoir retrouver ça. Enfin, voilà. Alors, du coup, j'ai pu faire quelques éléments sur leur origine géographique, quelles sont les communes qui étaient les plus concernées, et puis ensuite sur leur, leur lieu d'installation à Paris. Donc, voilà. Une, elle n'est pas très belle, hein, ma carte, parce que je l'ai faite vite, mais enfin, peu importe. Donc, ça, c'est à l'intérieur, en vert ici, le canton de Beaulieu, et puis quelques communes, communes limitrophes. Sauf que là, vous voyez, j'ai un truc qui est mal passé. Mais en fait, c'est pas grave. Les adhérents les plus nombreux, assez logiquement, ils viennent de Beaulieu, qui est la commune la plus peuplée. Voilà. Mmh. Et puis ensuite, on a un fort triangle, puis d'Arnac, Nonard, mmh. Tudeil. Là, c'est le rôle des, on va dire, des fondateurs, hein, qui ont sans doute rebattu pas mal autour d'eux. Et puis là, là, c'est faux, parce que là, ça, c'est le changement d'ordinateur. Ça m'a... voilà. Ensuite, on a des communes qui sont peu représentées, mais qui le sont un peu. Et puis, on en a quelques-unes qui ne sont pas du tout représentées. Donc, en fait, celle où il n'y a aucun originaire, c'est Billac et La Chapelle-aux-Saints, uniquement. Billac et La Chapelle-aux-Saints sont des communes au sud, sans doute plus attirées par le Quercy. Alors, est-ce qu'ils avaient adhéré, les gens de Billac ou de La Chapelle-aux-Saints, vers des associations quercinoises qui étaient aussi actives, probablement, voilà, hein, probablement. Mais on a ici donc une concentration, on va dire, dans le centre hein, du canton. Plus intéressant sans doute, c'est où est-ce qu'ils sont installés, nos Belloquois de Paris, à Paris. Voilà. Ils sont installés de manière assez concentrée dans 4 arrondissements, 17e, 18e, 8e et 9e arrondissement. J'ai mis à titre de comparaison, que j'ai trouvé dans l'ouvrage Corésien de Paris, l'ouvrage collectif que je vous ai évoqué, une carte sur l'implantation des membres des sociétés, de la société d'originaire du département de la Dordogne. Voilà. Et donc là aussi, hein, plus le cercle est gros et plus il y a d'adhérents. Et on a quelques points communs. On retrouve 17e, 18e et 9e arrondissement. Là aussi, donc, une forte concentration des Périgourdins au début du XXe siècle. Alors, j'ai essayé de me poser la question, pourquoi un regroupement aussi fort? Plusieurs raisons sans doute. D'abord, je pense qu'on peut évoquer le rôle de filière ou de réseau, c'est-à-dire des gens qui sont déjà installés lorsqu'ils ont de la famille ou des voisins, ou des gens qu'ils connaissent, qui montent à Paris, ben, on leur dit, bah, écoutez, venez dans notre quartier, on va vous aider à trouver... un logement, voilà. Et puis aussi parce que pour au moins 2 de ces quartiers, particulièrement 17e et 18e, fin 19e et début 20e siècle, ben, ce sont des périodes de chantiers importants, avec notamment une grande concentration d'immeubles haussmanniens. Et puis on peut penser aussi pour le 18e à la construction du Sacré-Cœur. Voilà. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de gens du coin qui sont des gens qui travaillent dans le bâtiment, vraisemblablement, habiter à proximité des chantiers était assez logique. Voilà. Je disais les immeubles haussmanniens, notamment dans le quartier de la Plaine-Monceau, ou quartier des Ternes, dans le 17e arrondissement, et puis bon, le Sacré-Cœur dans le 18e, et sans doute d'autres chantiers. Quoi. Mais ça peut peut-être expliquer cette concentration. Et le deuxième élément, c'est les connaissances, hein, à mon avis. Hein, voilà. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire sur... ce que j'ai pu faire de cette liste de 1909. Quelles sont les activités du Chardon? Voilà. À quoi elle se dédie, cette association? D'abord, il y a un banquet annuel. Voilà. Banquet annuel, là aussi c'est un peu clair, mais enfin peu importe. Dès 1906, hein, on a ce qu'on appelle banquet suivi de bal. Voilà. Là, je vous ai mis l'invitation de 1907, et je vous disais tout à l'heure, les femmes ne sont pas admises. Par contre, les dames sont admises au banquet. Important à savoir. Hein. Et puis après, dans les années qui viennent, c'est non seulement elles sont admises, mais on les invite, on les incite à venir, et on fait même une entrée gratuite pour le bal, après pour les dames. Bah, oui. Vraisemblablement, il fallait aussi...
Hein, alors, mais c'était statutaire que les femmes n'étaient pas admises dans la société? Carrément statutaire. Ah, oui. Parce que chez nous, notre société, il y a marqué qu'elles peuvent être admises quand même, dès le départ.
Voilà.
Donc là, non, même pas.
Non, là, non. Donc, seulement au banquet, par contre.
Ah oui.
Et au banquet, ben oui, ça, sinon un banquet que d'hommes, ça doit être un peu triste. Ouais, et puis pour le bal, ça marche beaucoup moins bien. Hein, ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà. Bon. Donc ce banquet, il a lieu chaque année en février. Et il est toujours sous la présidence d'honneur d'un compatriote. Voilà. Alors plus ou moins connu. Par exemple, en 1914, c'est Edmond Perrier, donc directeur du muséum. Voilà. En 1909, c'est un personnage qui s'appelait Sylvain Bargue, alors qui était originaire de Puybrun, hein, donc juste du Quercy, voilà, et qu'on surnommait le facteur poète. Voilà, parce que c'était un facteur, mais qui a écrit quelques recueils de poésie, puis voilà. Et donc, il y a à chaque fois un originaire qui est invité. Là, donc, c'est celle de 1913, avec un dessin qui a été réalisé par Robert Pradel, hein, également. Mmh. Et puis, deuxième grande activité, c'est l'excursion annuelle. Alors, les plus riches vont en voiture. Ça, c'est Élie Champagne. Voilà, donc, on sait que c'est le Charmant de Beaulieu, là, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il y a des dames, mais elles ne sont pas dans la voiture.
Ah, oui.
Hein, elles marchent à pied. Voilà, et puis quelques photos qui étaient dans ce dossier. Donc, ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment l'ambiance belle époque. Voilà, là, on retrouve le docteur Toussac. On retrouve Élie Champagne également. Voilà, les dames. Alors, je n'ai pas des dates pour toutes. Par contre, je sais que c'est toutes entre 1907 et 1914. Hein. Voilà. Donc, là aussi. Alors, avec un petit groupe de musiciens qu'on surnomme les Mirlitons, hein, c'est-à-dire de piètre qualité, quoi, voilà. Et puis, on voit qu'il y en a un du monde. Là, de nouveau, on a Élie Champagne, ici. Voilà, des dames. Il doit y avoir encore une, j'imagine.
Mais c'était des réunions, pardon, à Paris ou
alors, ces excursions, elles se font régulièrement chaque année, donc au mois de juin, à partir de 1907, et elles se font dans les forêts autour de Paris. Voilà, donc il y en a eu à Saint-Germain-en-Laye, à Marly, à Achères, voilà. Le rendez-vous se fait à la gare, hein, sauf pour les plus riches évidemment, hein, mais sinon, à la gare, on a négocié un tarif préférentiel. Et dès 1907 aussi, ils éditent une carte souvenir, c'est-à-dire qu'ils font venir un photographe professionnel. Voilà pourquoi on a eu quand même quelques-unes de ces photos. La moyenne de participation sur 1907-1914, c'est 200 personnes quand même. Hein. 200 personnes, donc on a voilà, un élément de convivialité important. On est dans l'ambiance belle époque, hein, insouciance et un peu essor économique, un repas bien arrosé, une promenade en forêt, des jeux, des chants, voilà. Il y en avait un qui était un peu déguisé tout à l'heure, etc. Donc c'est un moment où on se lâche un peu, voilà, comment on pourrait dire. Juin 1914, on le fait. Alors, je n'ai pas trouvé la date exacte, c'est assez intéressant, mais juin 1914, ça a lieu, ça se fait à Viroflay, voilà. Et dans les comptes rendus, de juin 1914, ni avant ni après, on ne trouve aucune référence aux tensions internationales. Hein. Pourtant, je rappelle que l'attentat de Sarajevo, hein, c'est 28 juin 1914, donc on est dans une période qui commence à être tendue, mais ça ne se voit pas du tout, en tout cas, dans les réunions amicales du Charbon. Voilà. Le troisième, donc j'ai dit, il y a le banquet annuel, les excursions, troisième activité du Charbon, la section épargne. Alors ça, c'est quelque chose qui a été créé par Élie Champagne en 1912. Ça n'existait pas auparavant. Qui est permis par une loi de 1898. Hein, on est dans le contexte du mutualisme, en fait, hein, des sociétés mutuelles. Le principe, donc, alors, c'est facultatif pour les membres du Chardon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés, mais ceux qui le veulent peuvent apporter une cotisation mensuelle dans une caisse spéciale. Voilà. Et avec ça, on dit qu'on achète, entre guillemets, des valeurs à lot qu'on va revendre, normalement, 3 ans après, et le bénéfice sera partagé au prorata de ce qu'on avait cotisé. Voilà. Il y a eu un problème, c'est l'arrivée de la guerre, ce qui fait que finalement, cette section épargne, elle aurait dû être liquidée en 1915, elle ne va l'être qu'en 1919, et ensuite, ça ne sera pas renouvelé. J'évoque ça parce que, il y a quelques années, et c'était M. Alouette également, il avait retrouvé dans un grenier de la mairie, ça, une bannière dont personne ne sait d'où elle sort. Hein. Voilà. Société de secours mutuel de Beaulieu, Corrèze. Et avec ici, très clairement, un rucher. Donc la référence à la ruche corrézienne. Alors est-ce que ça a un lien avec notre Charbon? Point d'interrogation. Je ne peux pas le trouver hein, pour l'instant. Point. Bon, voilà. Mais à Beaulieu, Société de Secours Mutuel, je n'en ai jamais entendu parler nulle part, dans aucun document que j'ai pu voir. Alors ça reste des choses, des ficelles à tirer, on va dire. Et des choses à élucider. Enfin, dernière activité du Charbon, c'est la participation aux fêtes de Beaulieu. Donc on a cette carte postale, alors je ne sais pas qu'elle soit très courante, mais enfin elle a été plusieurs fois reproduite. Donc ici, c'est le char du Charbon, hein, c'est très clairement indiqué, hein, le char du Charbon, le 18 août 1907, pour la fête de l'Églantine. Hein, donc fête de l'Églantine, qui est une initiative de la ruche corrézienne, hein, je l'évoquais tout à l'heure, en accord avec le maire de Beaulieu, Émile Montbrial, et puis les membres du Charbon de Beaulieu qui sont impliqués. Donc ils ont fait leur propre char, évidemment sous la forme d'un chardon, ça paraissait assez logique, et on y retrouve ici donc, le docteur Toulzac, voilà. Deux personnages, alors il y en a un c'est Troubadi et l'autre je ne sais pas qui c'est, voilà. Et puis ici, notre fameux Robert Pradel, notre artiste béloquois. C'est la seule photo que j'ai de lui, donc je ne peux pas dire exactement à quoi il ressemblait. Et puis on retrouve ici une représentation du Chardon. Cette fête de l'Églantine, hein, elle a duré 3 jours. Elle a été très importante. Donc elle a commencé par une conférence d'un personnage que vous connaissez, qui était Joseph Noyac. Voilà. Ensuite, le lendemain, un cortège donc, avec des chars, avec la plantation d'un châtaignier place du Monturu, c'est-à-dire face à la chapelle des pénitents, au bord de l'eau. Voilà. Évidemment, un grand banquet, alors qu'on appelait les taulada, hein, les banquets donc du Félibrige, hein, voilà. Des discours à n'en plus finir, ça c'est sûr. Jeux littéraires l'après-midi, concours artistique, et puis remise des prix, et puis le soir, illumination, etc., etc. Voilà, donc une fête importante. Et puis en 1910, eh bien, le Chardon décide de faire un char pour cette fois-ci la fête des Corsins, qui est la fête traditionnelle de Beaulieu début septembre. Alors je ne l'ai pas trouvé ce char, je n'ai pas de photo, voilà, je vous en ai mis un parce que je le trouve assez rigolo. Ça, c'est un char qui avait été fait pour la fête de 1909. C'est un petit qui est métro béloquois. Une faute à béloquois. Enfin, attendez, je remets en arrière. Le Chardon en guerre, avec un sous-titre, le trait d'union. Alors l'idée, elle date de 1915, et elle émane de Élie Champagne, donc qui était président, avec ce qui reste du bureau, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils se réunissent, et puis ils décident d'éditer ce qu'ils appellent une circulaire, dont je vous ai mis une partie ici, et qui a été expédiée à tous les adhérents, en tout cas tous ceux dont on pouvait encore retrouver les adresses, et elle donne des nouvelles des mobilisés. Voilà, cette circulaire, elle nous dit, voilà, le sénateur Bussière, bien que dégagé, a voulu s'engager, etc., voilà, il est affecté à tel endroit, monsieur Dallet, ancien président et pharmacien militaire à Userges, le vice-président Brousse est à Vernon, etc., etc., et on nous donne des nouvelles de ceux que l'on a pu trouver, on nous dit où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. On annonce même dans cette circulaire le premier mort connu des adhérents du Chardon, qui s'appelait Dillac, originaire de Nonard, et qui est mort dans les Vosges en octobre 1914. Et à partir de là, est né le principe de rédiger un bulletin d'information. Oui. Bulletin d'information qui a deux buts. D'une part, maintenir un lien entre les mobilisés et l'arrière. L'arrière, dans leur esprit, c'est ceux qui sont dans la région parisienne, puisqu'on parle bien des adhérents du Chardon. Mais très vite, l'arrière, ça va être aussi les gens de Beaulieu, pour qu'ils puissent avoir des nouvelles de leur fils, de leur neveu, etc., qui est mobilisé. Et puis le deuxième but, qui est assez évident, c'est de soutenir le moral des soldats. Il y a une idée patriotique derrière. Hein. On soutient le moral des soldats en espérant qu'on va pouvoir leur transmettre des informations encourageantes. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Et puis, on va leur apporter de la distraction avec, dès les premiers numéros, une rubrique qui est une rubrique qui s'appelle « Rubrique artistique et littéraire ». Donc, on va leur donner un peu un moment d'évasion par rapport à au dur moment qu'ils passent à la guerre. Le choix du titre s'impose dès le numéro 1. Dès le numéro 1, le titre, c'est « Le trait d'union ». Voilà, « Le trait d'union », avec, on retrouve notre fameux Chardon, hein, voilà. Donc bulletin mensuel, il va être mensuel pendant toute la durée de la guerre du Chardon, association amicale des originaires du canton de Beaulieu, siège social, c'est le domicile du président Champagne à Paris. Alors je vais vous en faire passer deux, je vous demanderai d'être le plus précautionneux possible parce que ce sont les documents authentiques, documents réels. La famille Champagne m'a donné toute la collection, voilà, il leur a manqué deux, donc elle m'avait fait des photocopies pour les deux qui manquaient, voilà. Et il y a quelques années, j'ai prêté à à Guéret, il y avait une exposition voilà, sur la guerre. J'en avais prêté deux, dont un qui, à mon sens, est le plus beau en termes iconographiques. Et
vous l'avez pas,
ils ont été perdus. Voilà.
Ils ont volé.
Ça m'a vraiment, vraiment désolé. Ça m'a vraiment désolé, donc voilà. Mais bon, je veux quand même que vous puissiez les toucher un peu, les regarder. Voilà, donc c'est des feuilles simples, comme ça. Hein, oui, voilà. Oui, oui. Je vous passe ça. Oui, vous n'avez qu'à faire circuler.
Tenez avec vous. Moi, je ne touche pas.
Alors, avant de rentrer dans le contenu, quelques mots sur voilà à quoi ça ressemble. Bon, mais vous en avez en fait, ce sont 4 pages. C'est une feuille qui fait 50 cm x 32, pliée en deux, et chaque page, chaque côté est écrit. Donc voilà l'intérieur. Donc vous voyez des chansons, etc. Je vais en parler. Et puis voilà la page derrière. Avec, on vous dit, les nouvelles des soldats sur le front, les nouvelles adresses des soldats, etc. etc. Voilà, donc vous avez un bulletin qui est extrêmement riche en informations. Donc en général, ça fait 4 pages, parfois 6, lorsqu'il y a des événements exceptionnels, on glisse une page supplémentaire au milieu. C'est entièrement manuscrit, donc écrit de la main de Élie Champagne. Élie Champagne qui écrit tout ça, voilà. Je peux vous dire que c'est du boulot parce qu'il y a 50 numéros. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de faute. Voilà. C'est important parce que ça veut dire que les lettres des soldats qu'il reçoit, il les retranscrit. Parce que les soldats, ils ne savent pas tous très, très bien écrire. Hein. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de faute, c'est vraiment parce que ça a été mouliné par le président qui a tout reproduit. Et puis ensuite, il les duplique. Alors, j'avoue, je ne me suis pas spécialement intéressé à la manière dont c'était dupliqué parce que bon, c'est pas. Voilà, une espèce de Ronéo, enfin, comme ça, hein, quelque chose comme ça à l'époque.
Mais il fallait que ce soit quand même précis parce que c'est.
Ah oui.
Ah oui.
Alors, moi, je suis pas. Pardon.
Quand il a retraduit, peut-être qu'il a arrangé un peu la lettre.
Et l'orthographe.
Alors, on va parler du problème de la censure. On va parler du problème de la censure.
Ah, peut-être.
Voilà. Alors, donc c'est je disais, hein, cette collection, elle comporte en tout 50 numéros. Donc, elle va apparaître tous les mois, donc de mars 1915 jusqu'à la fin de la guerre. Et puis, entre février et juillet 1919, elle devient bimestrielle. Hein, elle ne paraît plus que les 2 mois. Et en juillet 1919, c'est le dernier numéro. C'est assez logique, hein, puisque la plupart, pas tous, mais la plupart des soldats ont été démobilisés à ce moment-là. Ça va avoir un succès immédiat. Regardez, voilà, le tirage. Là, j'ai de la chance, parce que comme j'ai tous les comptes, j'ai l'évolution du tirage. Donc, la première feuille, c'est assez rigolo, parce que le premier numéro, il est édité à 20 exemplaires. Il ne sait pas, hein, bon, il faut avoir les adresses, hein, voilà. 20 exemplaires, et puis ensuite, ça augmente très rapidement. Un an après, en mars 1916, on est à 200. En octobre 1918, on est à 500 exemplaires. Voilà. Et après, ça n'augmente plus, hein, mais voilà, ça reste à 500 exemplaires. C'est pas négligeable. Hein. Alors, c'est assez important. La moitié du tirage est envoyée gratuitement aux soldats du canton. Gratuitement. Ils n'ont rien à payer. Même pas de cotisation au chardon. Il suffit qu'ils écrivent au président en disant voilà, je voudrais recevoir le trait d'union, et ils le reçoivent gratuitement toute la durée de la guerre. Voilà. Et l'autre moitié, par contre, est envoyée aux membres du chardon. Il y a d'ailleurs une campagne de recrutement pendant la guerre d'adhérents du Chardon, hein, puisqu'on remonte, je vous le disais tout à l'heure, en 1918, on est de nouveau à 127 membres du Chardon, voilà, alors que la guerre n'est pas tout à fait finie. Et les souscripteurs, une centaine de souscripteurs, exactement 98 en 1918, qui ont payé 2 francs pour toute la durée de la guerre pour recevoir le trait d'union. Avec un grand nombre de souscripteurs qui sont ce que je pourrais appeler des Belloquois de Beaulieu. En fait, des gens de Beaulieu, parce qu'il y a un relais efficace à Beaulieu. Le relais efficace à Beaulieu, c'est François Dubois, qui était un commerçant important. Il avait un magasin, on dirait un bazar aujourd'hui, qui était la Maison Universelle, qui se situait Place Marbeau. Voilà, hein, Place Marbeau. Et il assurait la publicité du journal à Beaulieu. Voilà. Et du coup, ben, le financement est assuré. Voilà la courbe du financement pendant la durée de la guerre. Voilà. Parce que, en fait, c'est la seule activité. Il n'y a plus de banquets, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus rien. Il n'y a que le journal. Hein, voilà. Donc, toutes les recettes et toutes les dépenses sont liées à l'édition du journal. On voit que les recettes sont toujours supérieures aux dépenses. Et donc, du coup, on a un solde positif d'à peu près 200 francs chaque année. Okay. Voilà. Donc, non seulement c'est une œuvre qui a été utile, on va dire, moralement, etc., mais en plus, qui, financièrement, est plutôt bien réussie, voilà, de cette édition. Voilà. Si je résume un peu comment comment s'organise la récolte d'informations. Donc j'ai essayé de faire ça sous forme de schéma, je ne sais pas s'il est très beau mon schéma, mais enfin pour que ça soit un peu clair. En gros, vous avez trois espaces géographiques qui rentrent en jeu. Vous avez Paris, voilà, où est Champagne. Champagne, il a été mobilisé, mais maintenu à sa fonction comme il est au chemin de fer de l'État, donc il reste à Paris tout le temps. Les soldats qui sont au front, et puis Beaulieu. Alors, production d'informations, ben, les soldats. Les soldats, ils vont envoyer des informations sous deux types. Il y a ce qu'on va trouver comme rubrique qui s'appelle les nouvelles des soldats. Ce sont des lettres courtes où ils racontent vite fait là où ils en sont, quel est leur état d'esprit, etc. Et puis vous avez les impressions du front, j'en reparle après. Ce sont des récits beaucoup plus construits, beaucoup plus élaborés, beaucoup plus longs. Bien. Vous avez ensuite production d'informations à Beaulieu. Pourquoi ? Parce que notre fameux François Dubois, là, le commerçant de Beaulieu, très vite il va faire ce qu'on appelle une chronique locale. C'est-à-dire qu'il va raconter des choses sur Beaulieu qui vont être mises dans le journal, évidemment tout ça part à Paris, et puis il y a ensuite à Paris, c'est-à-dire Élie Champagne, avec visiblement une sorte d'apprenti qui lui donne un coup de main, hein, mais c'est à peu près tout, sinon il fait tout seul. Donc il va lui aussi produire et récolter des informations, la partie artistique et littéraire, des dessins, des chansons, là je vais vous en parler parce que c'est pas lui qui les fabrique, évidemment, hein, il a deux personnes qui l'aident, les noms des morts, des disparus, des blessés, des prisonniers dont il peut avoir connaissance, il y a une rubrique sur les décorations, les promotions, etc., les changements d'adresse des soldats, tout ça, il faut le rentrer. Et puis, il fait toujours un éditorial et il évoque les réunions du Chardon avec les quelques membres qui restent encore là. Donc, il mouline tout ça, il traite cette information, il compose, il tire le journal, et ensuite, tout ça repart.
Ça repart.
Et vers Paris, le front, et vers Beaulieu, et vers les adhérents de Paris. Voilà, donc on a un circuit, alors il n'est pas très complexe, mais en fait, ça veut dire quand même qu'on a quelque chose d'un petit peu élaboré. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout dans le type journal de tranchée. Les journaux tranchés, ils sont faits par des militaires, pour des militaires, et ils restent dans un circuit qui est assez restreint. Là, on a quelque chose d'un autre type. Voilà. À ma connaissance, c'est assez rare. Moi, je n'ai pas vu que d'autres associations aient fait ça pendant la guerre. Et c'est sans doute ça qui a sauvé le Chardon, au moins d'une mise en sommeil, voire d'une mort certaine pendant la guerre.
Et la fréquence des bulletins ?
Tous les mois. Voilà. Sauf les février à juillet, 19 mois, mais sinon c'est tous les mois. Alors, j'en viens maintenant aux intervenants et aux différentes rubriques du Chardon. Voilà. Alors, j'ai pris quelques exemples. Moi, je suis bavard, en plus, je pourrais y rester des heures, donc je ne vais pas vous abreuver, mais j'ai pris quelques exemples. Si je suis trop long, on coupera un petit peu. En gros, dans ce journal, vous avez trois grands ensembles, mais avec une porosité assez forte entre les ensembles. Il y a d'une part des informations militaires, d'autre part des informations civiles, qui concernent à la fois le Chardon et Beaulieu, et puis vous avez cette fameuse partie artistique et littéraire. Donc je commence un peu par les soldats, hein, qui, les informations militaires sont les plus nombreuses. Donc vous avez deux choses, hein. Vous avez ces fameuses nouvelles des soldats. Voilà à quoi ça ressemble. Jacques Séguéla, qui est au 34e d'artillerie, dont, alors je ne sais pas si on a reçu ou s'il a écrit la lettre le 10 janvier, mais peu importe. Voilà. Mes meilleurs souhaits à tous les membres du trait d'union, j'ai l'espoir que cette triste existence déchaînée par les autorités boches se terminera cette année par la punition méritée de tous leurs crimes. Santé bonne, temps humide, avec neige, voilà ce que je peux vous dire de l'Alsace. Voilà. Ça, c'est le genre de choses les lettres les plus nombreuses. Donc très courtes, qui sont toutes retranscrites donc par Champagne, voilà. C'est les lettres des simples soldats, donc pas forcément des gens lettrés, hein, évidemment. Des infos basiques sur la santé, sur la localisation. Alors, en sachant que dès la fin du printemps 1915, la localisation n'y sera plus. C'est interdit, hein, strictement interdit. Donc pour Alsace, il n'y aura plus que le A. Alors qu'au début, on vous donne même la ville, hein, où ils sont. Hein, voilà. Donc bon, ça va être modifié par la suite. Et puis, beaucoup de choses sur leur vie quotidienne. Donc, évidemment, avec des éléments qui reviennent souvent, le courage, l'espoir, la confiance en l'avenir, on va gagner, enfin, etc. Bon, bien sûr. Et puis, on voit une évolution assez nette en 1917. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on est en guerre. Et là, revient, dans l'évocation de la vie quotidienne, un triptyque, ce que j'appelle le triptyque, sale temps, qui lui-même se décompose en trois, la pluie, la neige, le froid, la boue et le cafard. Et là, en 1917, là, on voit un moral qui tombe de manière très très forte. Ça remonte en 1918 avec les offensives, et là on sent qu'on arrive au bout. Quoi. Voilà. Donc c'est assez intéressant, je ne vais pas développer ici, mais on peut faire une étude quand même sur l'évolution morale des soldats à ce moment-là. Et puis on a des réflexions plus profondes, des récits plus construits, voilà, comme ici, François Lerme. Voilà. Donc on est en 1917. C'est toujours avec grand plaisir que j'ai reçu le trait d'union. C'est une distraction de voir les nouvelles de nos pays, c'est à peu près toutes celles que nous avons dans notre secteur. Je crois que nous allons devenir sauvages, toujours enterrés, ou dans les bois, ou bien nous allons devenir rats ou orang-outans. Si ce n'était le bruit du canon, ou Fritz qui tire à coups de fusil de temps en temps, ce qui nous distrait un peu pour savoir où ça tombe, le reste n'est pas très intéressant. Voilà. On voit, là, il y a déjà une réflexion. Hein. On va devenir rats, on est des sauvages, on est dans les bois, on est enterrés, etc. etc. On sent qu'il y a quand même, quelque chose d'un peu plus profond. Et puis ensuite, vous avez... Donc, ce que j'appelle les impressions du front. Alors, ça, c'est vraiment des récits beaucoup plus construits. Normal, ils viennent de capitaines, de lieutenants, parfois de caporaux, de sergents, mais souvent capitaines et lieutenants, qui envoient des récits assez construits, avec des réflexions, on peut dire, philosophiques, voire politiques. Ici, donc, j'ai pris l'exemple d'Auguste Soustre, hein, qui finira général, d'ailleurs, qui donc, était capitaine d'infanterie. Voilà ce qu'il dit en décembre 1918. Hein. Donc il écrit, lui, c'est la date d'écriture. Il écrit le 20 novembre, donc 2 jours après l'armistice. Voilà. Bon, le dernier quart d'heure de la grande lutte a enfin sonné, et à cette pensée, on est porté à interroger l'avenir. Le regard vers l'inconnu effraie souvent, en pensant aux destinées prochaines de notre France et aux exigences illimitées de tant de gens. Cette lutte titanesque aura-t-elle préparé des jours meilleurs, avec des temps tranquilles, ou sera-t-elle le prélude d'événements futurs plus grave et plus douloureuse encore. La sensibilité humaine, au contact des horreurs si longtemps côtoyées, se sera émoussée. Ce sera là, je crois, un de nos grands dangers futurs, contre lequel sera indispensable de réagir fortement. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans un avenir peu éloigné, nous aurons à lutter contre la horde des politicailleurs aboyeurs qui déjà recommencent sournoisement son œuvre. Et il y a deux choses intéressantes, donc l'évocation des politiques, hein, les politiques ailleurs, aboyeurs, voilà. Et puis surtout, à mon sens, la sensibilité humaine au contact des horreurs si longtemps côtoyées sera émoussée. Alors, on est en plein dans ce qu'un historien américain qui s'appelle George Moss appelle la brutalisation. Il explique qu'à la fin de la guerre, les jeunes, toute une jeune génération, qu'elle soit française, allemande ou enfin tous ceux qui ont participé à la guerre, ont été tellement imprégnés de cette culture de guerre, eh bien, qu'ils vont ramener cette culture de guerre et cette brutalisation dans la société civile. Et il explique, pas que avec ça, mais en partie comment on va arriver à la montée des tensions dans les années 30 et avec un deuxième conflit mondial. C'est assez intéressant de retrouver ça là-dedans, je trouvais. Parce que là, il y a une conscience quand même. Hein, le gars, il pourrait dire, bon, mais c'est la fin, on a gagné.
Ça se reproduit.
Mais il dit pas que ça. Il dit attention à l'avenir. Quoi. Voilà, donc c'est assez... C'est assez intéressant de retrouver ce genre de choses. Et puis, je vous en ai mis une note, parce que j'en ai plein des choses très intéressantes, donc bon, je vais quand même. Louis Bruni, caporal, hein, donc sous-officier. Alors, ça, effectivement, il décrit le 7 janvier, et il parle d'un événement qui se passe le 23 décembre. Et il dit, voilà, je vous le lis pas, il dit, voilà, on a fraternisé avec les soldats. Voilà. C'est une scène de fraternisation. Bon. Moi, comme j'ai lu ça, je me suis dit, bah oui, hein, les fraternisations en 1914, nous, en 1914, on connaît. Mais non. C'est le bulletin de février 1916. En réalité, il parle du 23 décembre 1915. Donc, il y a eu encore des fraternisations en 1915. Sauf que, comme il le dit, il a fallu que tout cela cesse, car on avait peur que ça finisse par mal tourner. Parce que l'état-major et les officiers, ils ne voyaient pas ça d'un bon oeil, surtout en 1915. Hein, 1914, ils ont été pris de court. Mais en 1915, c'était hors de question. Mais il y a eu. C'est le seul exemple que j'ai de 1915. 1914, je ne peux pas avoir, puisque le bulletin n'existait pas encore. Voilà. Mais il y a eu encore quelques scènes de fraternisation en 1915. Voilà. Bon, il raconte qu'on a échangé du pain, etc. Bon, évidemment, il dit les Boches n'avaient rien à manger. Bon, forcément, hein, nous on avait, eux ils n'avaient pas, il ne peut pas dire voilà, totalement les choses. Mais c'est assez intéressant. Puis, oui.
Il y a quelques années, il y a eu un très beau film, justement.
Oui, c'est le un dimanche de fiançailles, non?
Voilà,
ouais.
C'est le même sujet, c'était
oui, mais 1914.
Oui, mais c'était à Noël.
Oui, oui, c'est ça, c'est les fraternisations de Noël 14. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, maintenant, les historiens commencent à bien connaître les fraternisations de Noël 1914. Par contre, il est très rare d'entendre parler en 1915.
Voilà. Oui.
Donc, il y en a eu quelques-unes, mais sans doute beaucoup plus discrètes. Hein. Voilà, beaucoup plus discrètes parce que c'était dangereux. Voilà. Alors, autre exemple que je trouvais assez rigolo, et ensuite, je suis content parce que j'ai fait plaisir à quelqu'un. Le lieutenant Lescure. Alors, le lieutenant Lescure, c'est Marius Lescure, c'est lui. Il était d'Astaillac. Vous connaissez le château d'Estrès, à Astaillac. C'est la famille Lescure qui possède ça. Et aujourd'hui, c'est son petit-fils, Jean-Noël Lescure. Et quand j'ai fait mon petit bouquin, j'ai dit, tiens, ce Lescure, c'est forcément lui. Donc oui, c'était bien lui. Et je lui ai permis de retrouver ça qu'il ne connaissait pas. Voilà. En fait, Marius Lescure, il avait un poste assez important, puisque au moment où la guerre est déclenchée en août 1914, il est directeur de la succursale des établissements Fiché, qui vend des coffres-forts, en Russie. Il est à Saint-Pétersbourg. Sauf que la guerre est déclarée, il faut qu'il revienne en France. Il est mobilisé, il faut qu'il revienne en France. Et il raconte, donc en deux épisodes, on va dire dans le trait d'union, il raconte son périple du retour de Saint-Pétersbourg en France. Voilà. Et donc c'est assez rigolo. Et puis c'est assez, avec un style un peu poétique, il est lieutenant. Hein, c'est pas, voilà, donc il dit voilà, hein, la distance qui sépare Pétrograd, donc Saint-Pétersbourg d'Odessa, est d'environ 2000 km, que l'on parcourt normalement en quelques 40 heures. Les nécessités de la mobilisation nous obligeront à faire de longs détours et nous mettrons 4 jours. Voilà. J'ai coupé. Hein. Nous voici donc aux portes de la mystérieuse Asie. Il est à Istanbul. Quel panorama magnifique! La perspective incomparable du Bosphore s'offre à nos yeux éblouis. Ses villas somptueuses, ses jardins gracieusement disposés au flanc des collines. De ci, de là, de petites taches blanches, mosquées aux minarets élancés, adoucissant les teintes trop vives de ce paysage féerique sur lequel plane un ciel d'Orient d'un bleu turquoise. C'est quand même bien dit. Hein, voilà. Et puis ensuite, il passe en Italie. Voici les rochers de Carib-Dessila. Au loin, nous apercevons les îles Lipari et Stromboli, et le Stromboli. À la nuit, nous étions en face du Stromboli. Le volcan était en pleine activité, et c'était vraiment un spectacle fantastique. Des gerbes de feu s'élançant vers le ciel, des torrents de lave, comme des serpents incandescents, descendant vers la mer. Voilà. Il va arriver à Marseille, et puis il va être incorporé. Voilà. Après la guerre, il a été président du Charbon, brièvement, pendant un an, en 1922-1923. Il est ensuite devenu maire d'Astaillac de 1945 jusqu'à sa mort en 1955. Voilà. Donc ça fait partie de ces impressions du front, hein, de récits assez élaborés. Mais on peut imaginer qu'en lisant ça, les autres soldats, ils étaient quand même assez distraits. Ça les distrayait, quoi. Hein, voilà. Bon. Voilà pour ce point-là. Toujours dans les informations militaires, notre personnage, donc il y a les citations et promotions, parce qu'évidemment, savoir que les enfants, entre guillemets, de Beaulieu sont distingués à l'armée, c'est assez intéressant. Et j'en ai... pardon. Bon, il va s'arrêter tout seul. C'est mon portable. J'ai juste pris un exemple, parce que c'est un personnage assez extraordinaire, lui aussi. Voilà. C'est le chanoine Jean-Joseph Mallory. C'est un Belloquois. Hein. Il est né à Beaulieu en 1844. Il est mort en 1924. Il a été combattant pendant la guerre de 1870, et puis ensuite il a été aumônier à l'hôpital d'Alger. Et en 1914, à l'âge donc de 70 ans, il s'est porté volontaire pour être brancardier au front. Voilà. Donc il est venu se battre au front, et là je ne sais pas exactement, mais enfin à mon avis on lui a dit, bon écoutez, il faut arrêter. Voilà. Donc le 1er août 1915, des mains du président Poincaré lui-même, il a reçu l'insigne donc de chevalier, hein, non, officier de la Légion d'honneur, puisqu'il avait déjà fait chevalier en 1889, et puis on lui a dit, écoutez, bon, il faut arrêter. Voilà. Donc on l'a renvoyé à Alger, donc il est reparti à Alger avec cette décoration, voilà. Ce qui fait qu'à Beaulieu, en 1923, quand on a inauguré le monument aux morts, on l'a invité pour qu'il puisse présider la cérémonie. Bon, il n'a pas pu venir parce qu'il était déjà malade. Donc, il est mort en 1924 et son corps a été rapatrié. Il est enterré à Beaulieu. Voilà. Mais ça fait partie de ces personnages, quand même, qui sont assez, assez intéressants. Pardon ?
Haut en couleur.
Oui, haut en couleur. Hein, voilà, haut en couleur, effectivement. Voilà. Alors, la question de la censure. Question de la censure dans ce journal. Bon, j'ai pas de réponse totale, simplement en réfléchissant avec un peu de bon sens, il est clair qu'à mon sens, la censure, l'auto-censure est présente à toutes les étapes. Bon, d'abord, les soldats eux-mêmes, qui savent que de toute façon, il faut qu'ils puissent passer la censure militaire. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Ensuite, l'éditorialiste, celui qui va retravailler. Peut-être qu'il recoupe un certain nombre de choses qui sont trop tendancieuses ou qui ne passeraient pas, etc., etc. Par contre, je n'ai trouvé aucune trace de remise du bulletin à la censure elle-même. Donc, est-ce qu'il devait passer devant un organisme de censure ? Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà. Alors, il y a quand même des choses qui sont évoquées, entre guillemets, Dame Anastasie. Si vous savez, Dame Anastasie, c'est la censure. Hein, les soldats, ils l'appellent Dame Anastasie, donc elle revient très souvent. Ils disent, je ne peux pas vous dire ceci à cause de Dame Anastasie. Tout le monde a compris, c'est à cause de la censure. Voilà. Les noms de lieux, je vous disais, vont disparaître très rapidement, hein, remplacés uniquement par les initiales. Rien, mais rien, j'ai cherché, parce que j'ai tout lu, vous bien. Pas un mot sur les mutineries, notamment de 1917. Ah. Elles sont totalement absentes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu des Bellocois dedans. Hein. Enfin, voilà, donc, mais rien du tout. Hein. Rien du tout. Voilà. Quelques critiques voilées, quand même. Quelques critiques, mais toujours très, très voilées, très aseptisées. On cite à un moment donné les embusqués de l'arrière. Voilà. Ça, ce sont les soldats. Hein. Les soldats qui reprochent aux gens qui n'ont pas été mobilisés, donc on les appelle les embusqués de l'arrière. Et là, on les critique allègrement, et ça passe, hein, parce que ça valorise les soldats, etc. Et puis, il y a un des soldats qui s'interroge à un moment donné. Nous sommes incapables de juger les ordres du haut commandement. Comprenez, on a bien notre avis sur la question, mais je ne garde pas bien de tout donner. Voilà. Donc, quand on arrive à lire entre les lignes quelques trucs, mais assez peu. Voilà. Ce qui fait qu'on a quand même, on a des informations intéressantes. Alors, j'avais mis un truc qui n'est pas du trait d'union, mais c'était justement pour pouvoir comparer. Ça, c'est une lettre qu'on m'a prêtée par ailleurs, donc rien à voir avec le trait d'union. Hein. Une lettre d'une Siuniacoise qui s'appelait Maria Crua à son époux Joseph Crua, qui était mobilisé, une lettre de février 1915. Voilà ce qu'elle dit dans cette lettre. « Cher Joseph, j'ai reçu ta carte, toujours avec grand plaisir, de te savoir en bonne santé et à charme, mais je ne voudrais jamais de carte. Pourquoi être si court, si bref, alors qu'on a tant à se dire? Tu ne me dis jamais ce que tu pense de la situation de la guerre, que je me préoccupe plus que tout le reste. Je crois vraiment ne pas en voir la fin et certainement plus il semble que ce dernier jour fuit, j'ose dire que je désespère. » Mais en fait, vous voyez, elle lui dit « Mais pourquoi tu ne me dis rien de la guerre ?» Parce qu'il ne peut pas. Non, et finalement, dans le trait d'union, on a plus d'informations que dans les lettres privées. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà pourquoi aussi il est original, ce... Alors, un mot, ça va être assez rapide. Je vous disais, il y a une chronique locale de Beaulieu. Hein, c'est-à-dire François Dubois, on voit des nouvelles de Beaulieu pendant la guerre, donc c'est lui qui rédige toujours cette chronique. Quel est le but ? Sans doute, là aussi, rassurer les soldats en disant, voilà, à Beaulieu, tout va bien. Puisque le but hein, global, c'est de maintenir le moral des soldats, donc l'idée, c'est de dire, ben voilà, on va leur transmettre des bonnes nouvelles en leur disant, ben, au moins à l'arrière, ça va, au moins à Beaulieu, tout se passe bien. Ben ça ne marche pas, hein, le but, il n'est pas atteint, parce qu'en réalité, la chronique locale, elle est totalement empreinte d'éléments liés à la guerre. L'afflux des réfugiés, les blessés qui reviennent, les mutilés que l'on décore, etc., etc. Un escroc qui passe dans les familles en faisant croire que c'est le copain d'un soldat et qui leur extorque de l'argent, ça c'est très fréquent. Des prisonniers allemands qui se sont évadés, etc., etc. Et finalement, ça ne réussit pas. Merci. Et puis on a aussi les permissionnaires. Les soldats qui reviennent dans le pays.
Ah oui.
Et quand ils repartent au front, bah, ils donnent parfois leurs informations sur ce qu'ils ont vu dans le pays. Et malheureusement, là aussi, c'est pas forcément... pourquoi j'ai évoqué ça maintenant ? Je l'ai oublié alors. Oui, dans les chroniques des soldats, hein, pardon, alors, je reviens un tout petit peu arrière. À partir de novembre 1916, la liste des morts pour la patrie, donc du Chardon, hein, les adhérents du Chardon, qui est publiée tous les mois. Un peu étonnant, hein, parce qu'on sait que normalement, la presse, elle n'a pas le droit de divulguer des informations négatives. Et là, de novembre 1916 jusqu'à la fin, tous les mois, il y a la liste des soldats morts et disparus, et qui, évidemment, s'allonge. À la fin de la guerre, 28 adhérents du Charbon sont morts ou disparus. Hein. Voilà. Alors oui, je disais, la vie à Beaulieu, donc, qui est censée relever le moral des soldats. Sauf que voilà ce que dit Jean Bonneval, donc on est en 1917, en novembre 1917, donc il rentre de Beaulieu. Toujours très intéressant, bon voilà, pour les bonnes nouvelles du pays, je présente à M. Dufresne, pour j'en parle après, agréablement on a fait des bonnes choses. Je rentre de permission, et j'ai encore un peu de cafard, mais ça va se passer. Du reste, il faut bien reprendre ses anciennes habitudes. J'ai assisté aux vendanges, vu quelques camarades, mais trouvé le pays bien triste. Beaulieu a bien changé, on y voit bien noir, et ce n'est pas fini malheureusement. Dire qu'avant la jeunesse des alentours, on allait se procurer du plaisir à Beaulieu, enfin, il ne faut pas pourtant perdre courage. Alors après, il essaye de remonter. Mais enfin, il le dit, et c'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui disent que Beaulieu est triste. Évidemment, tous les jeunes sont partis, il reste des vieux, des éclopés, des mutilés, des femmes, c'est à peu près tout ça. Donc finalement, le but de maintenir le moral des soldats en disant « vos familles vont bien à Beaulieu », c'est pas sûr que ça soit atteint, hein, parce qu'en réalité, ils sont pas fous, hein, donc ils comprennent bien que ça marche pas. J'ai encore quelques minutes ou...
Oui,
ça va. Oui, je suis bavard et je suis parti après. Alors, quelques mots quand même sur cette fameuse partie artistique et littéraire, qui fait quand même l'originalité, qui fait que certains, beaucoup même de soldats, l'ont très vite surnommé, pas du charnon, du trait d'union, et beaucoup de soldats l'ont surnommé, entre guillemets, chasse-cafard. Parce que quand ils le reçoivent, évidemment, voilà. Alors on a d'abord le rôle très important par des dessins et des poèmes et des chansons de l'artiste Robert Pradel, que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous ai mis quelques-unes des illustrations. Ça représente une première catégorie d'illustrations. Ce sont des vues emblématiques de Beaulieu. Voilà, vues emblématiques de Beaulieu. Des vues qu'il connaît parce qu'il était, il est venu beaucoup de fois à Beaulieu. Et puis qu'il reproduit à partir de cartes postales. Voilà, très clairement, hein, c'est des vues qui sont reproduites par cartes postales. Le pont suspendu, voilà, qui sera détruit après la guerre pour être remplacé par le pont actuel. Ici, c'est ce qu'on appelait le château des Comtes de Lyon, qui était en fait la mairie et gendarmerie de Beaulieu jusqu'en 1920, où ça a brûlé totalement. Voilà. Oui, parce qu'il y avait des enfants de gendarmes qui jouaient avec des noix et qui ont mis le feu à des noix, et puis alors, tout a brûlé. Voilà, hein. Le déplacement de la mairie, là où elle se trouve aujourd'hui. Et puis là, une vue emblématique avec la chapelle des pénitents, la barque, etc. etc. Tout ça, ce sont des... Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe de comment dire, d'illustrations faites par Robert Pradel. Voilà. Deuxième groupe, c'est ça. Des personnages de l'arrière, souvent des femmes et les enfants, hein, les femmes et les enfants, alors dans leur vie, on va dire, de tous les jours, voilà, qui rappellent, on va dire, la continuité de la vie, hein, cette femme avec, c'est, comment on appelle ça, une espèce d'oule, là, enfin,
une dourne.
Voilà, celle-ci, alors, bon, si c'est la béloquoise type, ça m'étonnerait un peu, hein, c'est un peu moderne, hein, pour être béloquoise à l'époque, on ne sait pas encore, et puis ici, ça c'est assez rigolo, c'est ce qu'on appelait la bagnole. La bagnole, c'était l'espèce de minibus qui faisait le lien entre Beaulieu et la gare de Bretenoux. Voilà. Ah. Et alors là, on ne sait pas, est-ce qu'il part, est-ce qu'il revient, il embrasse sa femme, le petit soldat, hein, forcément. Hein. Il y en a plusieurs. Hein, ce sont, les enfants, c'est des petits soldats, c'est toujours les garçons. Il faut là aussi penser à l'avenir. Hein. La France, elle a besoin d'enfants, etc., pour être forte. Hein. Donc ce thème, il revient souvent. Donc ça, c'est le deuxième thème. Et puis, troisième thème, représentation de la guerre. Représentation aseptisée de la guerre. Un soldat concentré, qui attend, etc. Ou un soldat heureux, parce qu'il a reçu soit le trait d'union, soit des nouvelles de sa femme. Voilà. Rien d'autre. Hein. Robert Pradel, c'est ça. Voilà. Donc de 1915 à 1917, toutes les illustrations sont des illustrations qui sont faites. Ce sont des images pacifiques. Il n'y a jamais l'ennemi. Jamais. Voilà. Il n'y a jamais l'ennemi, il n'y a jamais le combat. C'est uniquement fait pour rassurer, pour garder le moral, pour dire, regardez, rappelez-vous, voilà. Sauf que c'est peut-être à double tranchant, hein. Ça apporte un côté nostalgique aussi, hein. Voilà. Donc bon, est-ce que ça marchait ? Bon, l'idée, c'est de faire oublier, voilà. Mais bon, voilà. Fin 1916, les dessins changent. Ah non, ça c'est le dernier, voilà. C'est le dernier de Pradel, justement. Fin 1916, le dernier de Pradel, c'est en dessous de la première liste des morts, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est une image que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est je la trouve très émouvante. C'est une espèce de semi-gisant de soldat. On ne sait pas s'il est mort, s'il est en train de mourir, s'il est blessé. Bon, voilà, il a quand même le casque qui est tombé, etc. Et là, on a quelque chose de plus grave, quoi. C'est la mort, hein. C'est le deuil qui commence à prendre le dessus. On est à la fin de 1916, la situation n'est pas très brillante.
Mais il y a toujours un charnon, ce genre.
Et puis, donc, ensuite, en 1917, le coup de crayon n'est plus le même. Pourquoi ? Ben parce que Robert Pradel, il a été... Alors d'abord, il est tombé malade, apparemment assez gravement, il s'est remis, et puis il a été mobilisé. Il a été mobilisé, et donc du coup, ben, il est obligé de partir. Et donc, c'est un autre coup de crayon. On retrouve là aussi des vues emblématiques de Beaulieu, le pont suspendu, les sous-bois. Alors là, il aime beaucoup le côté bucolique, les sous-bois avec les barques.
Et c'est toujours
ça, c'est des cartes postales de Beaulieu de l'époque. Qui est-ce qui a repris les illustrations ? Alors, c'est un personnage qui s'appelle Maurice Dufresne. Alors, Maurice Dufresne, vraisemblablement un Parisien, peut-être même qui n'est jamais venu à Beaulieu. C'est un chansonnier. C'est un chansonnier. Il a eu une petite notoriété dans la région parisienne, un petit peu avant, et puis après la guerre, dans les années 20, les années 30. Alors j'ai trouvé, mais ça j'ai trouvé que hier, il est mort en 53, je crois. Voilà, donc faut que je creuse les informations. Mais c'est un personnage qui connaissait vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, qui connaissait Élie Champagne. Et donc du coup, dès 1915, dès le début du trait d'union, il participe, d'abord, par les poèmes et les chansons. C'est lui qui écrit tous les poèmes et toutes les chansons. Et puis, lorsque Pradel est mobilisé, eh ben, il reprend également les illustrations. Voilà. Donc Maurice Dufresne, vraisemblablement, donc, il fait uniquement par carte postale. Vous allez voir aussi, il reproduit des tableaux assez connus et il les agrémente un petit peu. Et il reprend les illustrations, donc on retrouve ça. Et puis ensuite, on a un deuxième... On voit qu'il y a quand même des changements dans la thématique. Voilà. Les images patriotiques, voire même nationalistes, hein, le coq fier, hein, les soldats à l'attaque, voilà. Là, ça rappelle... Marianne et... L'Arc de Triomphe, en fait, hein, voilà, c'est ce que je cherchais. Au moment de Noël, très religieux, une vocation très religieuse, ce qu'on n'avait pas avant, hein, ce qu'on n'avait pas, voilà. Donc on a le coq crayon change, mais aussi les thématiques également. Il n'hésite pas à montrer l'âpreté des combats. Voilà. Alors ici, donc, ce qui permet de valoriser les héros, hein, c'est le grand guerrier, d'accord, hein, mais quand même qui est au milieu d'un tas de... Voilà, hein, c'est vraiment la guerre, hein, ça explose, vous avez un blessé. Les As, hein, c'est un avion, ça ne se voit peut-être pas très net, mais enfin, c'est, hein, les As, donc les premiers combats aériens, voilà. Et puis des images, alors moi, c'est celle-là que j'ai perdue, donc heureusement que j'avais quand même fait un scan, que je trouve extraordinaire, moi, j'aime beaucoup celle-là. Donc l'aigle crucifié. L'aigle crucifié, sanguinolent au-dessus de la chapelle des pénitents. Voilà. Mais celui-là, je l'ai perdu. Voilà, je n'ai plus l'original. Voilà, c'est dommage, mais voilà, je l'ai perdu. Voilà. Et là, mais c'est une image ambivalente en même temps, parce qu'il est crucifié, hein, c'est l'aigle allemande, mais c'est le Christ aussi qui est crucifié, donc bon, voilà. Et puis, Marianne en pleurs, hein, le deuil, voilà. Donc là, on est en novembre 1918, donc on est. C'est pas encore l'armistice, puisqu'il y a le décalage d'un mois, forcément, mais enfin, on est proche de la fin. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, iconographique. Et puis ensuite, il y a tous les poèmes et toutes les chansons. Voilà. Donc tout ça est fait par Maurice Dufresne, de 1915 jusqu'à 1919. Là aussi, on a trois thèmes. Alors il a produit plus de 100 poèmes et chansons. Donc ça veut dire une moyenne de 2 par numéro. Voilà. Et parfois, il y en a 3. Hein. Alors, quelques exemples. Donc, premier grand thème, l'ennemi allemand tourné en ridicule. Voilà. L'ennemi allemand tourné en ridicule. Donc, les titres à eux seuls sont évocateurs. Remballe ton zeppelin. Le caca, entre parenthèses, le pain boche. Voilà, pour dire qu'ils ont mal nourri, etc. Impérial maboulisme, etc., etc. Donc là, il y en a une bonne partie, hein, qui sont des moyens, bon, de ridiculiser l'ennemi allemand. Voilà. Deuxième ronde. Parfois, il y a la ligne mélodique. Là, il n'y est pas, mais parfois, il y est. Voilà. Ensuite, vous avez une deuxième grande catégorie. C'est la douceur de vivre à Beaulieu. Voilà. Alors, avec des titres qui... Donc, la vote, c'est la fête. Hein, c'est la fête votive. Hein, voilà, c'est les corsins, en fait. Hein, voilà. Donc là, j'ai des titres comme la vote, le vin de Beaulieu, la pascade où traditionnellement, on faisait une omelette. Voilà. Fée des Lochenzans, le feu de Saint-Jean, etc., etc. Et en fait, bon, Maurice Dufresne, il ne connaît pas Beaulieu, mais c'est Champagne qui lui passe régulièrement des notes sur le pays. Voilà, il lui dit à Beaulieu, on fait ceci, on fait cela, et puis lui, il en fait des poèmes et des chansons. Voilà. Et puis, le troisième thème, c'est le cours de la guerre. Le cours de la guerre, ici, en voulez-vous des poilus? Voilà, et là, on a l'exemple avec, avec la ligne mélodique, la partition, etc. Voilà, donc il y a... Donc ça évoque les combats victorieux, comme par exemple, il y a un poème qui s'appelle « Alouette de France », donc sur les combats aériens. Hommage, un autre qui s'appelle... il y a des hommages aux morts de Beaulieu parmi les poilus. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle Ils ne passeront pas, qui a été écrit pour Eugène Grivel, qui était, je ne sais plus s'il était lieutenant ou capitaine, peu importe, et qui est mort en cours de guerre, membre du Chardon, et on lui a fait un hommage, etc., etc. Donc, comme celui-ci, et puis il y en a évidemment des dizaines de chaque. Voilà. À noter, pour terminer sur ce point-là, que eh bien, Maurice Dufresne fait quand même quelques émules, puisque au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit apparaître des poèmes qui vont être publiés, signés une, entre guillemets, ancienne Ursuline. Voilà. On a un autre qui signe Anonyme Belloquois, et que en 1920, Champagne va dévoiler à la réunion de reprise du Chardon. Et puis il y a même un soldat qui fait des poèmes, et ce soldat, il a pris pour pseudo Par Éclat. Voilà. Bon. Donc on a comme ça un côté distrayant à ce trait d'union. C'est vraiment une caractéristique assez, assez importante. J'en viens à mon dernier point. Si vous avez encore 10 minutes, ça va ? Ouais, je vais aller vite. Hein, voilà. Ce que j'appellerais l'apogée, le déclin, c'est-à-dire le Chardon dans, dans la période d'entre-deux-guerres. D'abord avec un retour progressif à la normale. Je vous ai évoqué tout à l'heure la réunion de mars 1920. On a une nouvelle génération. Hein, qui arrive, Élie Champagne et presque tout le bureau démissionnent à ce moment-là, pas par rancœur, hein, mais parce que sans doute c'était un gros travail et qu'il fallait effectivement changer de génération. Sauf que pour moi c'est très embêtant, puisque comme mes documents viennent de la famille Champagne, après j'ai beaucoup moins d'informations, des informations qui ne sont plus, plus que parcellaires. Simplement, quand même, on peut signaler le rôle qu'a eu le Chardon dans le monument aux morts de Beaulieu. Il y a un projet de monument aux morts qui a été réalisé et qui a donné, hein, donc ça c'est le projet, c'est Robert Pradel hein, qui l'a fait. Donc c'est toujours notre artiste du Chardon qui a fait, voilà. Donc une plaque de bronze qui représente Marianne, alors une Marianne assez erratique, hein, erratique, casquée, avec, on a les victoires, les batailles, on a le laurier, etc., qui est censé être en pleurs. D'après ce que tout le monde dit à Beaulieu, donc Pradel aurait pris sa femme qui s'appelait Marthe Bain comme modèle pour ça. Les adhérents du Chardon ont été incités à souscrire pour le monument de Beaulieu, ce qu'ils ont fait, voilà. Le monument a coûté assez cher, il a coûté 15 000 francs à l'époque, et il a été payé par les souscriptions des Belloquois, les souscriptions des gens du Chardon, et par une subvention de la mairie, et pas du tout de subvention de l'État. On n'a pas voulu, à Beaulieu, on a mis un point d'honneur à ne pas prendre un sou de l'État pour construire notre monument aux morts. Il a été inauguré, je vous disais, en 1923, donc dans les jardins de la nouvelle mairie, hein, qui venait d'être, enfin, pas d'être construite, mais en tout cas d'être transformée en mairie. Voilà, il y a eu un personnage qui a joué un rôle, qui s'appelait Jean Pougnet. Alors Jean Pougnet, c'était un pharmacien, pharmacien de Beaulieu, qui pendant la guerre était mobilisé, et a particulièrement travaillé sur les gaz, et particulièrement les gaz asphyxiants. Ah. Voilà. Il est de la famille, Jean Pougnet, il était de la famille de Pierre-Raymond Lafont, pour ceux qui connaissent, c'était le conventionnel donc, de l'époque de la Révolution. Il y a un Belloquois qui avait été à la Convention, et il était membre de cette famille. Voilà. Je vous dis un mot sur les morts. Hein. Donc, dans le canton de Beaulieu, il y a eu 324 soldats tués, hein, dont 71 pour la commune de Beaulieu, ce qui représente pour le canton donc 3,8% de la population. On est au-delà de la moyenne nationale, qui est à 3,5%, et Brive est à 3,5% également de sa population. Par contre, on est en dessous de la moyenne des tués pour le Limousin, puisque la moyenne des tués pour le Limousin est de 4,16%, et pour le département de la Corrèze, 4,40%. Voilà. Donc nos Belloquois ont un peu moins servi de chair à canon que les gens de Haute-Corrèze. Voilà. Il y avait même dans le trait d'union, il y avait un gars, je ne l'ai pas repris ici exactement, mais qui disait pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ouvrier intellectuel, le paysan a été envoyé en première ligne, quelque chose comme ça. Et c'est bien vrai, hein, et c'est bien vrai évidemment. Hein, voilà. Voilà. À part à Beaulieu, les autres monuments du canton n'ont pas véritablement d'originalité par manque de moyens financiers. Hein, ils les ont pris comme sur catalogue, ce qu'ont fait la plupart des communes. J'en cite quand même deux. À Altillac, si vous avez l'occasion d'y aller, alors il n'est pas très propre, j'ai demandé au maire à plusieurs reprises de le nettoyer. Mais enfin, voilà. On a un gisant, hein, on a un gisant là, voilà, de soldats. Vous avez la plaque derrière, bon, il est un peu dans la mousse. Et puis il y a quand même quelque chose d'intéressant. À Puy-d'Arnac, sur la plaque du monument aux morts, vous avez cette plaque avec des photos de soldats. Malheureusement, on n'a pas les noms. C'est dommage, mais voilà. Bon, elle est en train de finir de s'abîmer, hein, j'imagine. Oh, voilà, C'est dommage qu'on n'ait pas les noms, parce que c'est intéressant. Voilà, on a ça, puis d'arnaque. Il y a une petite plaque avec quelques photos dans l'église de Billac également. Voilà. Et bon, là, c'est en plein air, donc voilà. Les familles, mais les familles, il y en a peut-être plus beaucoup.
Ils sont plus capables de repérer. Quand on cherche, c'est ce qu'on se rend compte.
Alors, le chardon dans les années folles, dans les années 20. Voilà, donc je vous disais, des infos parcellaires. Alors il y a eu plusieurs présidents, Marius Lescure d'Astaillac que j'ai évoqué tout à l'heure pendant un an. Ensuite il y a eu Joseph Perrier qui est un des fondateurs, je ne sais pas combien de temps. Et puis il y a eu un autre, Jules Troubadi, que j'ai évoqué vite fait tout à l'heure, qui meurt en 1929. Mais je n'ai pas vraiment la continuité de tous les présidents. Les activités, on peut dire qu'elles sont modifiées dans les années 20 et qu'elles montrent une forme d'embourgeoisement du charbon de Beaulieu. L'excursion en forêt a été abandonnée. Peut-être trop populaire, on se mélange trop, enfin voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'a pas repris. À la place, on a créé un arbre de Noël, qui est un peu plus standing, parce qu'on invite une catégorie. Alors, il y a toujours des présidents d'honneur, hein, vous savez, où on invite des dames, mais madame, la femme de tel préfet, madame Alvarez de Toledo, etc., etc. Voilà, donc des personnalités assez importantes. Et puis un banquet qui se sophistique de plus en plus, puisque, donc là, c'est la fête de 1924. Voilà, donc on a le menu. Alors les menus de l'époque, c'est toujours rigolo, hein, parce que voilà, vous avez le potage, un bar sauce hollandaise, un filet de charolais, des haricots verts, une poularde de Bresse, voilà, salade, fromage, entremets, et puis quelques mains, évidemment. Voilà, donc on a le banquet, présidé par M. Bussière, notre fameux ancien sénateur de Étienne Bussière, voilà, le bal, et puis on a aussi une tragédie comique, en un acte, etc., voilà, caracalla. Bon, voilà, donc des activités un peu plus mondaines, avec des présidents qui sont toujours des présidents illustres à ce moment-là, dans les années 20. Le Cherbonnier, là, le juriste que j'évoquais tout à l'heure, en 1921. Henri de Jouvenel, en 1922, qui est député. De Lastérie, en 1923, ministre des Finances, hein, c'est pas rien, voilà, etc., etc. Et puis en 1925, donc le 20e anniversaire du Chardon, le président de la soirée, quand même, c'est Champagne. Voilà, c'est le Champagne que l'on a ramené pour l'occasion. Tournant dans les années 30, et je vais terminer là-dessus, avec de nouveaux présidents, là aussi, hein, j'ai des informations parcellaires. On a un personnage président, mais je ne sais pas grand-chose de lui, il y a une photo tout à l'heure. C'est Henri Soulier qui a été président de 1930 à 1934, puis Jean-Baptiste Estrade à partir de 1935. Puis après, on perd la trace. Et quand je dis on perd la trace, y compris dans les journaux. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Simplement, dans les années 30, deux faits nouveaux importants. D'abord, le rôle majeur que va jouer à ce moment-là le docteur Raymond Faugère. On l'avait vu au début, après éclipsé. Et puis là, il va avoir un rôle important dans les années 30. Et le deuxième rôle majeur, c'est l'inflexion très nette du Chardon dans le développement touristique de Beaulieu. Mais en réalité, les deux sont liés. Pourquoi ? Parce que le docteur Raymond Faugère est celui qui a créé le syndicat d'initiative moderne en 1929 à Beaulieu. Donc il va donner une impulsion sans jamais avoir été président du Chardon. Il est président d'honneur, ça je vous l'avais dit. Les liens vont donc sans doute se resserrer quand même entre le Chardon et Beaulieu. Voilà. C'est l'époque où le tourisme se développe vraiment à Beaulieu. Je donne quelques jalons. Hein. Dès 1919, Beaulieu devient Beaulieu sur Dordogne. Voilà. Pour la différencier des autres beaux-lieux, voilà. Ensuite, 1927, classement au monument historique de la chapelle des pénitents. 1929, je dis, syndicat d'initiative. Puis, 1930, accueil de la 30e fête de l'églantine. Voilà. Je vous en montre tout de suite. Non, ça c'est, voilà. Alors, c'est la seule photo que j'ai du docteur Raymond Faugère. Elle n'est pas bonne du tout parce que c'est une photo que j'ai rendue de la presse.
Oui, voilà.
Une photo de la 30e fête de l'églantine à Beaulieu. Donc, nos petites Béloquoises avec la reine du Félibrige qui s'appelait Pierrette Faugère. Donc, soit c'est sa fille, soit c'est sa nièce. Hein, voilà. Mais là aussi, un truc assez rigolo parce que cette photo, je l'ai vue des dizaines de fois et jamais fait gaffe. Et puis, c'est l'autre jour, cette personne-là, c'est ma grand-mère. Lucie Arnaud, la femme Lucie Arnaud, mariée Le Hec ensuite. Elle avait 20 ans là et c'est l'autre jour, je suis tombé. Ma cousine lui ressemble comme deux gouttes d'eau et j'ai dit, mais c'est moi. C'est dingue, ça ne peut pas avoir. C'est comme ça, ça fait aussi partie de l'histoire. C'est aussi un peu la mienne. Donc je disais 1930, la 30e fête de l'églantine, avec deux films promotionnels qui ont été faits à cette occasion-là, par Jean Faugère, le frère de Raymond Faugère, qui était directeur de la propagande aux établissements Gaumont. Deux films promotionnels qui ont été. Que je n'ai jamais réussi à trouver. On n'a pas réussi à les trouver. Pourtant, des films de 1930, ça vaudrait le coup quand même d'avoir ça.
Oui, c'est clair.
Ben ouais. Mais ils ont, pourtant, on a téléphoné plusieurs fois à Gaumont, etc. Voilà. Ils n'ont pas dans leurs archives, etc. Voilà. Et on a les numéros de bobine. Hein, ouais. On a les numéros de bobine. Ils ont été perdus. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un patrimoine. Ça serait extraordinaire d'avoir
ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a
tout ça? Eh bien, ouais, mais ça, voilà. Mais bon, voilà. Ensuite, 1935, je vous disais, hein, la première édition du guide illustré par le syndicat d'initiative. Et puis, 1937, organisation par le syndicat d'initiative de Beaulieu des, je cite, états généraux touristiques de l'ancienne vicomté de Turenne. Ah, donc il y a l'idée, hein, qu'on doit avoir une promotion touristique, non pas que de Beaulieu, mais de l'ancienne vicomté de Turenne. Une idée qui était assez moderniste, hein, quand on sait que notre office de tourisme vient de fusionner Basse-Corrèze et Nord-du-Lot, on n'a rien inventé. Quoi, en fait, voilà. Voilà. Et puis 1938, la demande de classement de Beaulieu en station de tourisme. Voilà. Vous voyez, on a, voilà, on commence à se développer avec le tourisme, sauf qu'évidemment, la Seconde Guerre mondiale va casser un peu les ailes de cet élément-là. Voilà, je vous ai mis ici donc la fête du 25e anniversaire du charbon de Beaulieu, donc c'est à Paris, sous la présidence donc, de Henri de Jouvenel. Ça se fait en novembre 1930 à Paris. Là, c'est assez rigolo parce que donc, ça se passe à Paris, hein, mais vous avez des Bélocois qui ont fait la publicité. Ah, voilà, ouais. Et là, très clairement, on dit, hein, c'est vraiment pour inviter les gens à venir. Hein. Mm-hmm. Donc, insister auprès de vos amis pour qu'ils prennent leurs vacances à Beaulieu. N'oubliez pas de leur recommander le café de l'univers et son dancing, etc., etc. Et en fait, tous, on insiste en disant, on a des beaux magasins, vous serez bien à Beaulieu, etc. Voilà, le charbon de Beaulieu, donc là, président d'honneur, hein, docteur Faugère, président Henri Soulier, etc., etc. Là, le but qu'on trouve, en fait, dès les statuts de 1905, je ne les ai pas évoqués tout à l'heure, établir des relations amicales entre les compatriotes, les soutenir moralement, les aider dans la lutte pour la vie, ça c'est très fin 19e, et faire revivre les traditions du pays dans les fêtes et réunions. Voilà. Et puis là, vous avez le programme de la soirée. Bon, il y a un mot du docteur Faugère, dessin de Pradel, évidemment, toujours, hein, notre fameux Pradel. Et puis là, voilà, projection du film Beaulieu, ses environs et 30e fête de l'Églantine. Voilà. Qui a été réalisé par M. Jean Fauvert, directeur du service de la propagande des établissements Gaumont. Voilà, il y avait deux films, en fait, et puis voilà, ça s'est perdu, malheureusement. Voilà. La dernière grande évocation du Chardon que j'ai pu trouver, ou une des dernières grandes, c'est dans le journal La Corrèze républicaine et socialiste, en 1933. Voilà. Un article important, hein, sur 5 colonnes. Hein. Sur 5 colonnes, mais c'est pas totalement anodin. Pourquoi ? Parce que le directeur de la Corrèze républicaine et socialiste, il s'appelle Henri Fabre. Henri Fabre, il est né à Hayen, il était fils de gendarme, et il a grandi à Beaulieu, en fait, parce que son père avait été muté, donc il a gardé des liens forts avec Beaulieu, et il s'intéresse donc à ce qui se passe à Beaulieu. Et donc, en 1933, il est également l'invité d'honneur de la fête annuelle du Chardon de Beaulieu. Donc, il fait donc un discours, hein, c'est Henri Fabre, voilà. Là vous avez Henri Soulier, le président du Chardon à ce moment-là, et là vous avez le docteur Faugère. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu cette image, et donc il est, Henri Fabre est l'invité d'honneur, et il fait donc un reportage sur 5 colonnes, et c'est le dernier document que j'ai qui évoque le Chardon. Mm-hmm. Et puis, et je termine là-dessus, même si j'étais plus long que prévu, finalement, j'ai un 3/4 avec un discours. Et puis, donc à partir de 1935, eh bien, les documents à notre disposition sont de plus en plus rares. Qu'est-il advenu par la suite ? Voilà. Les liens, alors je pose des questions, c'est pour ça que je lis un peu, parce que, voilà, hein, est-ce que les liens entre le Chardon et Beaulieu se sont distendus ? Est-ce qu'il y a eu une perte d'activité du charbon, liée à la crise économique, liée à la crise sociale, liée aux tensions politiques des années 30 ? Point d'interrogation là aussi. Est-ce que le charbon a disparu brutalement au moment de la Seconde Guerre mondiale ? Il y a des chances. Lors de l'Exode, par exemple, où tout le monde quitte le nord de la France, a-t-il fusionné avec l'association corrézienne à une date qu'on ne connaîtrait pas, voilà. Toujours est-il qu'après la Seconde Guerre mondiale, le charbon n'existe plus, n'a pas repris ses activités. Bon, les priorités sont aussi ailleurs, hein. La société change, on est plus individualiste, c'est les choses glorieuses, on va de l'avant, les liens avec le pays d'origine, avec une nouvelle génération, se distancent de plus en plus, et puis voilà, autant de questions qui mériteraient de nouvelles recherches, et puis je vous remercie de m'avoir
merci à vous, merci, voilà. C'est vous qui vous remercie.